Ok. Hello les gars sur Internet. Salut Gary, salut Josh, salut Clémence.
Hello.
Comment vous allez?
Ça va et toi?
Ouais, ça va.
Salut, ça va et toi?
Ouais, super. Bah ça va, merci. Ouais. C'est cool que vous soyez là. Vous m'entendez bien?
Ouais, très bien.
Ok, cool. On fait toujours un petit check. Ah, j'ai l'impression qu'il y a du Arsène. Peut-être un peu trop fort. Ok. Super, mais installez. Oh, pardon. Installez-vous. On va bientôt commencer. Josiane. Ok, bon, ça va pas le faire. Cool. Super. Alors. h 10. Ok. Personne qui est en train d'arriver, bah, ils se rajouteront. Ok, bah, je propose qu'on commence la séance. Les personnes qui viendront en plus se rajouteront discrètement. Super. Est-ce que vous avez bien chaud? Ou est-ce qu'il fait froid? Ok. Ok. Pour l'instant, en tout cas, ça va. D'accord. Parce que c'est juste pour le bruit de l'aérotherme, on pourrait le couper si jamais. Si jamais vous avez trop froid, on peut rallumer. Qui c'est qui vote qu'on coupe? Personne? D'accord. Ça marche, on le laisse. Pas de problème. Moi, c'est pour vous, ça ne me dérange pas, c'est juste que soyez pas voilà, gênés par ça. Super. Mais en tout cas, merci d'être venus ce soir. Bienvenue à tous. On va passer une bonne soirée ensemble. On a un thème à creuser et à approfondir ensemble. Et vous avez peut-être des questions, vous avez des choses qui ont germé sur votre cœur le temps de cette préparation. N'hésitez pas, soit notez-les et puis on revient dessus dès qu'on aura un temps de questions-réponses. Et sinon, venez me voir en dehors de la formation. N'hésitez surtout pas. Je vous dirai déjà si vous me dérangez, etc. Mais en tout cas, je suis là pour vous aider parce que je ne sais pas tout, mais en tout cas, on peut trouver des solutions ensemble. Donc venez, n'hésitez pas. Super. Alors, la dernière fois, on avait parlé d'investir. C'était notre thème central. Et ce soir, on va parler d'éducation. L'éducation en général, vous allez voir que c'est un thème qui est intéressant de connaître à tout niveau de la vie, on va dire. Même si vous avez déjà eu part à ça dans votre vie par rapport à vos enfants, ou si vous allez être confronté à ça pour plus tard, ou si vous êtes en plein dedans, comme moi, comme nous. Voilà. Donc ça va être un thème qui va parler à tout le monde. Voilà. Et avant de commencer, on va prier. Juste remettre cette soirée entre les mains de Dieu. Et je crois qu'il va faire des choses spéciales encore ce soir. La dernière fois, c'est passé. La prochaine fois, ça vient. Mais ce soir, on est là. Et c'est un temps unique et spécial. Alors, merci Seigneur pour ta présence ce soir au milieu de nous. Je te demande par ton esprit, Seigneur, de venir. Et en chacun de nous, Seigneur, de faire l'œuvre que tu te réjouissais de faire aujourd'hui. Et merci, Père, que tu puisses trouver des cœurs disponibles qui veulent recevoir, qui veulent apprendre, qui veulent grandir avec toi et avancer. Parce qu'on a compris, Seigneur, que tu as toutes les clés, toutes les solutions et que tu as l'enseignement parfait, Seigneur, et tu veux nous en faire part. Alors viens encore, Seigneur, moi je te demande de te servir de moi ce soir afin que je puisse communiquer de la bonne et d'une manière excellente et que mes amis, Seigneur, puissent recevoir, Père. Et que ce soir, ton œuvre soit excellente, soit unique, soit spéciale pour aujourd'hui encore. Bénis tous ceux qui sont à distance sur le net, Seigneur, et bénis encore tous ceux qui vont recevoir cet enseignement lorsqu'ils vont l'écouter sur l'enregistrement. Et merci pour tout ce que tu fais encore au travers de cette formation au nom de Jésus. Amen. Génial. Est-ce que quelqu'un a une bonne nouvelle pour nous encourager? Est-ce que vous, pendant cette formation, vous avez vécu des choses déjà? Vous aimeriez juste donner un court témoignage en quelques minutes pour dire « Waouh, j'étais... Je sais pas, je pensais de cette manière-là, et puis Dieu m'a vraiment convaincu pendant la formation, ou juste quelque chose qui va nous encourager, qui va m'encourager aussi, parce qu'il reste plus beaucoup de cours à faire et je voudrais pas baisser les bras maintenant, quoi. Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à nous partager? Même sur le net, si vous avez envie, sentez-vous libre. Vas-y, Francine, ouais. Alors, vérifie juste qu'ils soient allumés.
Oui.
Voilà, super.
Alors ce sera bref, mais c'est juste pour dire que ben, au cours de cette formation, financièrement, j'ai vécu enfin, plusieurs choses. Je me suis engagée dans un projet conséquent, financièrement parlant, et puis un projet d'investissement. Et la deuxième chose, c'est que j'ai eu une promotion professionnelle. Enfin, donc voilà, tout ça pour dire que Dieu, enfin, il est à l'action en fait par rapport à l'information qu'on reçoit. Donc il y a des choses, je pense, qui dans ma manière de voir changent. Et voilà, et ça produit du résultat. Et la deuxième chose, c'est que le fait de s'inquiéter en fait quand financièrement les choses se passent pas comme prévu. Et ben là, je vois que j'ai cette tendance-là, elle est en train de partir. Et je vois que Dieu y prend soin. Parfois, on a des soucis. Moi, je sais que, par exemple, pour mon permis, j'ai dû dépenser et je dépense beaucoup, beaucoup d'argent. Et sauf qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais en gros, je ne fais que sortir de l'argent et ça ne se concrétise pas. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et là, maintenant, je suis dans une attitude où je comprends en fait que ce n'est pas mon argent, c'est Dieu qui met cet argent-là à disposition. Et même si ça devait durer 10 ans, ce qui ne va pas être le cas, ben Dieu assurerait mes arrières. Donc ça vaut pour ça, mais aussi pour d'autres choses qui sont en train, pour des difficultés que je peux rencontrer. Je vois que je commence à comprendre que Dieu gère et que moi je suis son enfant et que je suis au bénéfice de ce qu'il fait. Et ça, voilà. Merci.
Super, c'est très encourageant. Et quelqu'un d'autre? Clémentine, super, les témoignages.
Moi, suite à l'étude de cette semaine, surtout de ce chapitre d'investir, moi, ce que j'ai pu déjà apprendre, c'est d'abord le nouveau mot, le mot de thésaurisation. C'est un mot que j'avais jamais entendu. Et la définition m'a fait comprendre que c'était amasser de l'argent, sans les dépenser. Sinon, voilà, d'après mon caractère, j'étais quelqu'un, voilà, les circonstances de la vie, m'ont appris toujours à épargner, en fait, parce que j'ai toujours appris à compter sur moi-même. Donc j'ai toujours épargné, sauf que ouais, à partir de ce chapitre, Dieu m'a appris, c'est de la sagesse. Donc savoir comment épargner et savoir comment gérer cette épargne. Donc moi j'avais tendance en fait d'avoir mes sous et les épargner en cas de besoin et prendre dans mes économies et satisfaire mes besoins. Mais sauf qu'au-delà de ça, je suis quelqu'un en toute humilité, hein, de bienveillant, d'avenant. Donc, quand je voyais dans mon entourage quelqu'un qui avait des problèmes, des difficultés, j'avais toujours hâte, j'ai toujours hâte, pas que j'avais, c'est pas encore fini, il faut que j'apprenne. Donc, d'aller toujours au secours de cette personne sans, en m'oubliant presque, en fait. Et voilà, d'après ce que Dieu m'apprend, c'est une bonne attitude, mais il faut de la sagesse. Dans la semaine dernière, on a parlé de la fourmi. Il y a 15 jours, de la fourmi qui amasse. Au-delà, à travers ce chapitre, j'ai appris maintenant. Donc là, ce matin, comme j'étais en congé aujourd'hui, je suis allée voir ma banquière déjà pour établir un projet avec elle. Donc je me suis dit maintenant, Dieu demande aussi qu'en étant bon gestionnaire, que je pense à moi, que je pense à l'avenir et peut savoir comment utiliser mon argent en fait. Donc c'est ça, tout ça que ça m'a apporté.
Super, c'est encourageant. J'ai vu que Jean a levé la main, on va finir avec son témoignage.
Oui, merci. Moi, c'est plus s'encourager, déjà pour commencer par moi-même. S'encourager dans quel sens ce cours aussi important? Je me suis absenté au moins à 5 cours, indépendamment de ma volonté, parce que bon, je travaille, j'ai des missions ponctuelles par rapport à la garde des enfants. Donc, ce qui fait que voilà, j'ai trouvé un travail où je devais travailler que les après-midi. Donc, exactement quand il y avait Connect, quand il y avait l'étude. Donc, je me suis absenté à 5 cours. Voilà, donc, ça s'encourage dans quel sens? voilà, nous sommes au 10e cours. Je me suis rendu compte que voilà, Dieu a permis que je puisse participer au 10e cours, peut-être jusqu'au 12e. Comme quoi, voilà, j'ai prié parce que je voulais justement au moins rester, comment dire ça, en fait, faire partie de, faire part des derniers cours, en fait, un peu manqué, parce que c'est un cours aussi important. Je suis aux 3e séance encore. Donc, c'est pour m'encourager, encourager tous ceux qui, pour différentes raisons, se disent, bon, écoute, voilà, je peux pas, je peux plus continuer. Je pense que ça vaut la peine de continuer, quoi. Et Dieu merci que je suis là ce soir et je serai peut-être au 11e ou 12e. Merci.
Super, super. Merci. C'est vrai que ça me fait toujours plaisir que les personnes viennent parce que c'est pour vous, parce que c'est pour moi. Et puis, on apprend les choses ensemble. Plus il y a de personnes, plus je suis content, c'est sûr, parce que j'aime tellement partager ça. Mais après, je comprends que vous ayez des imprévus, des choses comme ça. Si c'est des imprévus qui sont justifiés, ça, c'est votre responsabilité devant Dieu. Et j'avoue que je prends une part souvent dans ça, et je me dis, mince, ça pourrait me frustrer, etc. Maintenant, c'est à vous de prendre aussi vos responsabilités. On est des gérants de tout ce que Dieu nous confie. Et vous vous engagez pas envers moi, c'est envers Dieu. Donc, c'est très bien que voilà, parfois, il y a des choses qui viennent se barrer notre route, etc., que vous puissiez peut-être reprendre les cours, etc., à un moment, et puis avancer. Le but, c'est que vous puissiez apprendre et avancer avec Dieu. Mais je rappelle encore une fois que tout le contenu qu'on a vu, et on va le voir dans les 12 séances, vous ne pourrez pas tout retenir pour ce premier cursus. Enfin, si vous y arrivez, très bien, impeccable. Mais la formation doit être suivie de pratiques. Donc, mettez tout en pratique. Super si vous avez tout retenu. Mais ensuite, revenez aussi dessus. Et comme moi, je fais, j'ai pas tout retenu du premier coup. Ça me fait du bien de revenir dessus. Ça me permet de me replonger dedans. Donc, ne soyez pas culpabilisés si maintenant vous n'avez pas tout suivi, vous n'avez pas tout retenu. C'est un processus. Et les personnes qui ont 40 ans d'expérience, je parle de courtes, des personnes qu'on va rencontrer au Portugal, donnent dans des témoignages le fait de, en 40 ans, ils sont encore travaillé sur des trucs basiques et tout, et que Dieu avait fait 40 ans plus tôt. Ils disent, voilà, c'est juste un processus. Super. OK. Alors, pour commencer la séance de ce soir, avec les bonnes choses, sont la parole de Dieu. Qui c'est qui connaît le verset de la parole? Super, Clémentine, vas-y. Et là, je sais que tout le monde se dit, waouh, c'est cool que Clémentine ait levé la main avant tout le monde. Ça sauve beaucoup de personnes, c'est ça? Ok, vas-y Clémentine. Ouais.
Dans Proverbe 22:6, oriente le jeune garçon dans la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas.
Super. Je trouve que ce verset est puissant parce que souvent, en tant que parent, on peut se dire, waouh, j'ai tellement investi dans mon enfant, je lui ai donné plein de bonnes valeurs et puis pourtant, je ne vois pas ça dans sa vie actuellement. Mais un jour, et puis si on continue d'arroser dans la prière, Dieu à un moment fait des choses et puis nous récupère au passage et puis il fait des choses glorieuses dans nos vies. Donc c'est un verset qui est pas anodin pour nous parents qui ont envie et pour vous parents qui soit le serez, soit l'êtes, que vous puissiez le déclarer aussi. Ok, au premier jour on avait justement l'invitation de refaire un comeback sur la session Investir et je vous avais parlé la dernière fois d'un témoignage que je voulais vous lire pendant la formation. Voilà, pour ceux qui étaient là, pour ceux qui ont entendu l'enseignement, sur le principe de semer et de récolter. Je n'avais pas eu le temps, je n'avais pas pris surtout le temps de le faire la dernière fois, et je vais le faire ce soir. C'est issu du livre « Bien, richesse et argent », souvent que je vous parle. Et j'aimerais lire en fait un témoignage d'un des auteurs qui est en rapport avec le principe de semer et de récolter. Alors voilà. Il n'est pas très long, mais il est très intéressant. Alors, l'auteur s'appelle Earl, d'accord ? Alors, il dit « J'ai vu ce principe à l'œuvre d'une manière très pratique il y a plusieurs années. Le Seigneur nous avait bénis financièrement, Dorothy et moi, sa femme. Nous étions de ceux qui donnent la dîme et nous avions fait de nombreux dons au fil des années. Cependant, nous n'avions jamais fait l'expérience d'une multiplication de l'argent en retour. En y réfléchissant, nous avons découvert que cela était dû au fait que nous n'avions jamais semé de façon délibérée. Nous avions donné la dîme, donné généreusement à d'autres, mais nous n'avions jamais semé de façon délibérée. Quand nous avons prié à propos de ce concept biblique, nous avons été conduits à en tester la validité. Nous connaissions un homme qui travaillait dans une œuvre chrétienne. Je l'ai contacté et lui ai communiqué ce que nous voyons dans la parole et à propos de la multiplication. Nous avions une somme d'argent qui tombait dans la catégorie surplus de notre cercle fermé et que nous savions devoir utiliser comme semence. Nous avons été conduits à semer cette somme dans le royaume de la manière suivante. Nous avons rencontré cet homme et lui avons remis la somme en lui précisant que ce n'était pas un don ou une offrande, mais plutôt une semence dont je croyais qu'elle multiplierait et reviendrait décuplée. Nous savions que nous aurions à veiller sur notre semence parce que beaucoup de choses pouvaient détruire ou réduire la récolte. Nous nous sommes engagés à prier pour notre ami et pour son ministère et à mener un combat spirituel selon les instructions que le Seigneur nous donnerait. Notre ami ferait de même pour nous. Une fois la semence mise en terre, nous nous sommes, comme le fermier, couchés et levés. Et d'où viendrait la croissance, nous ne le savions pas. Pendant les 6 mois qui ont suivi, mon ami et moi avions communiqué et parlé sur ce que Dieu était en train de faire dans notre vie. Nous avons aussi attendu la récolte. Un soir, chez nous, après une étude biblique, avec un groupe de personnes, un homme est venu vers moi avec une enveloppe contenant un chèque. Il a dit qu'il avait discuté avec Dieu pendant plusieurs jours à propos de cet argent. Il savait que je travaillais pour IBM et qu'avec mon salaire, je n'avais certainement pas besoin de cet argent. Pourtant, par obéissance à ce que Dieu avait imprimé sur son cœur, il avait décidé de me remettre cette somme. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, le chèque s'élevait à mon grand étonnement à un montant exactement 10 fois supérieur à celui que j'avais semé. J'étais si ému que je ne savais si je devais rire ou pleurer. Cette expérience a scellé quelque chose dans mon cœur. Pour moi, la question de savoir si Dieu opère sur le mode des semailles et de la moisson était réglée. La question qui se posait à présent était « Où va l'accroissement ?» Moi, ça m'a beaucoup encouragé d'entendre ce témoignage, de lire ce témoignage. Et la dernière fois, on parlait justement de semer et de récolter. Et je vous avais donné quelques clés. On s'était mis dans la peau d'un agriculteur. Et ce que j'aimerais que vous vous souveniez ce soir, en faisant cette étude du jour 1, le comeback de ce jour 1, c'est que Dieu est responsable de la croissance. Souvenez-vous, on se lève, on se couche, Dieu est responsable de la croissance. Ce n'est pas entre nos mains de faire, vous ne pouvez rien faire pour que ça pousse plus, ou plus vite en tout cas, ou qu'il y ait une multiplication. Ça, ce n'est pas de votre ressort. Et le deuxième point, et ce qui est vachement essentiel de retenir, c'est que la récolte vient quand les desseins, les intentions de Dieu ont été accomplis. Et c'est pour ça que je voulais justement vous donner le retour sur ce témoignage, parce que Earl, l'auteur, dit qu'effectivement, avec sa femme, ils ont dû se mettre dans un combat spirituel. Ils n'ont pas juste attendu que la récolte vienne, ils ont prié. Ils ont été aux côtés de cet ami qui avait un ministère, ils ont dit « on va te soutenir ». Ils ont travaillé à entretenir ce qu'ils avaient semé, et un jour, c'était 6 mois après, ils ne savaient pas. Ça aurait pu être 1 an, ça aurait pu être 2 mois, 3 mois, ça peut être 1 semaine, peu importe. Mais ils ont travaillé et ils ont récolté. Mais ils s'attendaient à recevoir une récolte. Et j'ai trouvé intéressant que nous, pour nous, voilà, si dans notre vie, Dieu n'a pas changé. Dieu est le même pour Earl aux États-Unis qu'il l'est pour nous. Donc on peut vivre les mêmes expériences, mais en connaissant les principes. Et les deux clés, donc, c'est que Dieu est responsable de la croissance et que une fois qu'il y aura ses intentions été réalisées, il va pouvoir nous amener la récolte. Mais il y aura une récolte. On a vu aussi que la récolte n'est pas toujours financière. Elle peut être d'une autre façon. Vous pouvez semer. Il y a que dans le royaume de Dieu que quand on sème quelque chose, on n'est pas obligé de récolter de la nature de la semence qu'on a semée. Est-ce que c'était clair? Si vous semez du blé dans un champ, vous allez récolter du blé. Mais avec Dieu, quand vous semez de l'argent, vous semez de l'amour, vous semez des choses, vous ne recevez pas forcément de l'amour, vous en recevez sans doute, mais pas seulement. Et c'est ça qui est incroyable avec Dieu, mais il y a toujours une récolte. Et la récolte est toujours décuplée, parce que Dieu se charge de la multiplication. C'était clair ? Voilà. J'ai voulu vraiment vous partager ce témoignage parce que c'est du vécu. Si cet homme l'a vécu, selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui aime Dieu, je me dis, Seigneur, fais-le encore. Fais-le encore dans nos vies, fais-le dans la vie de tous ceux qui entendent ce témoignage et fais-le dans ma vie encore. Et montre-moi comment je peux semer, montre-moi comment je peux récolter. Je vous avais expliqué que souvent on dit, tiens, je te donne un soutien, je fais une semence dans le royaume de Dieu, etc. Et ce n'est pas tout à fait juste dans le terme qu'on utilise si on s'arrête là. Si derrière, après, oui, on intercède et on dit, Seigneur, maintenant, cette semence, elle va porter du fruit et je veux une récolte parce qu'avec cette récolte, je vais encore pouvoir faire des choses pour ton royaume. On est dans le principe de semer et ça, c'est une vérité. Par contre, quand on fait un don, quand on fait une offrande, on n'est pas dans le principe de semer. D'accord ? Voilà. OK. Pour terminer, le jour 1, il y avait une petite étude financière à faire sur les intérêts. Alors, on ne va pas la développer ensemble et j'aimerais surtout que vous puissiez comprendre. Je le rappelle aussi pour tout le cahier, pour tous les exercices que vous avez à faire en application, comprenez le cœur, comprenez le principe. Moi, j'ai fait la part des choses, je n'ai pas toujours fait les exercices parce que ça ne me correspondait pas, parce que c'était pas, ça ne me parlait vraiment pas sur le moment, d'accord ? Ne faites pas les choses parce que c'est écrit dans le livre ou parce que vous devez le faire. Faites les choses pour comprendre le principe qui est derrière et faites les choses pour que ça améliore votre raisonnement, vos principes, vos façons de faire, peut-être, d'accord ? Le principe ici de faire cet exercice, c'était de comprendre que si on met un peu d'argent de côté chaque année sur un compte qui produit des intérêts, on atteint de belles sommes plus tard. Et c'est ça qu'il voulait montrer au travers de cet exercice. Et ne vous embêtez pas avec les chiffres, les intérêts composés, etc. Et parfois, ça peut paraître compliqué pour certains, je conçois. Pour moi, ce n'est pas tout à fait clair non plus, il n'y a pas de souci. Mais comprenez le fond, c'est que l'épargne est voulue par Dieu parce qu'effectivement, il nous demande de regarder à la fourmi, d'accord ? Mais une épargne, on l'a vu, elle est toujours orientée pour un objectif et, ou une durée, etc. Et on n'épargne pas pour juste épargner, d'accord ? Donc, épargner, le terme épargner, c'était quoi ? C'était ne pas dépenser maintenant pour avoir de quoi dépenser plus tard, ok ? Mais j'aimerais vous donner un conseil. Vous en ferez ce que vous voudrez, mais la dernière fois, je vous avais montré une vidéo. Est-ce que vous vous souvenez ? J'avais passé une vidéo, même les deux dernières fois, mais celle de la dernière fois, c'était Howard Dayton qui a écrit donc, le manuel que vous étudiez. C'est l'auteur de ce livre. Et est-ce que vous vous souvenez du thème, enfin, ce qu'il disait dans la vidéo ? Est-ce que ça vous parlait ? Je l'avais aussi envoyé par email. Est-ce que ça vous évoque quelque chose ? Yes ? Oui, non ? Oui ? Ouais, Jean ?
Oui, il disait de se préparer pour la crise qui allait venir, qu'on ne sait pas quand, mais qui était sûre d'advenir, et que ce n'était pas celle de 2008, mais qu'il y avait encore une beaucoup plus importante.
Oui.
Et qu'il fallait prendre au sérieux de mettre sa vie en règle avec Dieu, d'apprendre spirituellement tout ce qu'il y a à apprendre et d'encourager ses amis, sa famille à faire de même aussi au niveau de ses finances, à mettre de l'ordre dans ses finances. Quoi.
Ouais, exactement. C'est effectivement un avertissement qu'il nous donnait, non pas pour nous faire peur, mais justement pour nous faire prendre conscience que c'est important, voilà, de ce que vous faites, de ce qu'on peut communiquer aux autres. On est là dans le principe d'épargner. Donc le conseil, là, c'est là où j'en étais. Il y aura une crise économique qui va venir. Les personnes qui l'ont annoncé, il n'est pas le seul. C'est pour moi, alors ça c'est mon avis perso, ce sont des personnes en qui j'ai confiance et qui ont un cœur vraiment pour Dieu, qui ont un impact dans ce monde et qui font des choses à une échelle qui me dépasse. Donc j'ai mesuré, j'ai regardé, j'ai étudié, j'ai confiance. Et ces personnes-là, notamment Kurt, courte. J'aime beaucoup parce qu'il fait des petits rapports comme ça sur son blog. Et j'en ai imprimé 5 pour qui voudront ce soir. J'en ai imprimé 5, mais je l'enverrai aussi par email. Donc ne vous inquiétez pas si vous en voulez. C'est sur les banques. Et ce qu'ils annoncent, c'est que les banques risqueraient de faire faillite dans les prochaines années. On ne sait pas quand. Mais étant donné la situation économique actuelle, c'est ce qui est en prévision. D'accord ? Et très certainement, c'est vers là qui se dirige. C'est un avis que vous pouvez discuter. Mais le système économique de ce monde va probablement, et comme le disait Howard, se casser la figure. Nous, en tant que chrétiens, on devrait être avertis, s'y préparer, etc. Mais moi, mon conseil, c'est que l'épargne ne devrait pas être forcément, et moi je pense pour ma vie, dirigée vers une banque. Pourquoi ? Parce qu'il y aurait bientôt ces conséquences. Le document que je vous donnerai là, si vous en voulez plus, je vous l'enverrai par email, parle de ça. Parle de la situation, parle des solutions, parce qu'il n'y a jamais avec Dieu un problème sans solution, on est d'accord ? Et nous encourage à faire quoi ? Et j'aime beaucoup, parce que Dieu a mis dans le cœur des chrétiens, ils en ont parlé notamment le premier jour du kick-off, des solutions tangibles qu'on peut mettre en place dans nos vies pour se préparer à ce problème. Okay ? Donc si vous en voulez... J'en ai imprimé 5 ce soir, vous les prendrez à la fin de la leçon, et je vous l'enverrai quand même en copie par email, mais c'est parfois mieux de l'avoir en version papier. Ok ? Ça vous va ? Donc mon conseil ce soir, c'est de ne pas forcément investir tout votre argent. Alors attention, n'allez pas à votre banque demain et dire « Vous me clôturez tous les comptes, il va y avoir une de ces crises économiques, je ne sais pas si vous êtes au courant. » Mais vous savez quoi ? Les banques le savent. Et pour parler avec des personnes qui sont dans un système économique du monde, des gens qui ne connaissent rien de Dieu, ils l'annoncent, ils le disent. J'étais surpris de pouvoir discuter avec des gens, ils me disent « Luc, tu verras, ça va arriver bientôt, ça nous tend, ça nous pend au nez, etc. » Et je fais « Mais moi, je le crois, mais je suis d'accord avec toi, etc. » Et puis, par contre, ces personnes-là n'ont aucune solution. Ils voient le constat arriver parce que la France, qui est endettée à plus de 2000 milliards de dollars, et que le chiffre monte chaque seconde de 2000 euros, 2500 euros, ça ne peut pas aller vers une bonne solution, on est d'accord ? Bref, ce que je veux dire, c'est que nous devons être avertis et nous devons nous mettre comme la fourmi. La sagesse de Dieu, nous devons l'utiliser pour nous préparer, d'accord ? Et effectivement, ces personnes-là, quand on va vers elles et dit « Moi, je suis d'accord qu'il y aura une crise économique, mais j'ai un Dieu qui est tout-puissant et je suis d'accord. » Et c'est ce que j'ai fait avec mon collègue de travail un jour. Je lui ai dit « Mais tu sais quoi ? Moi, je crois que les chrétiens, ils ont une longueur d'avance parce que Dieu les inspire. Et moi, je crois qu'il m'a inspiré. » Pour m'y préparer, il me regardait comme ça, il me disait « Ah ouais, ok ». Je dis « Mais oui ». Et puis, mon Dieu, il a des solutions dans les problèmes et il va pas me laisser tomber. Et là, à ce moment-là, on est un témoignage, d'accord ? Et quand la crise va arriver, on sera des témoignages. C'est ce que Kurt, quand vous passez du temps avec lui, ben, il transpire de ça. Il dit « Moi, je me réjouis ». Il limite comme ça, il attend que ça. Que la crise arrive, il a dit parce que moi je m'y prépare tous les jours, etc. Parce que quand on va la vivre, il y aura une récolte d'âmes qui va être impressionnante parce que les gens vont être forcément dans la panique ou sans réserve et nous chrétiens qui aurons été avertis à l'avance, on pourra être vraiment une solution pour eux et leur amener le salut, leur amener Jésus. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que je trouve qu'au travers des finances, moi, je voulais toujours gagner des âmes, etc. Et puis, vous pouvez aller jouer de la musique, vous pouvez faire des choses dans la rue, vous pouvez faire... Ça, c'est trop bien. Mais quand vous avez une vie financière qui est en ordre et que les gens voient ça dans votre vie et que vous dites, mais c'est pas possible, eh bien, vous pouvez aussi témoigner d'un grand Dieu dans votre vie. Bref. OK ? Donc, attention à votre investissement, où c'est que vous le placez. Et même si c'est en dehors d'une banque, faites toujours les choses avec... La sagesse de Dieu, c'est une chose qui est certaine, on le sait, mais c'est bon de l'entendre encore une fois. Ok, On va passer au jour 2 pour entrer concrètement dans le sujet d'aujourd'hui avec le verset dans Deutéronome 6, versets 6 à 7. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que je n'ai pas été trop rapide? C'est bon? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à notez-les et puis on reviendra dessus. Allez, Deutéronome. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. On reste dans Deutéronome 11, le verset 18 à 19. Mettez mes commandements dans votre cœur et dans votre âme. Vous les attacherez comme un signe sur vos mains et ils seront comme une marque entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Encore deux versets, le proverbe 22, verset 6. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. C'était le verset d'aujourd'hui. Et Éphésiens 6, verset 4. Quant à vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. J'aime bien ce verset parce que ça nous, en tant que pères, ça nous invite fortement, très très fortement, à être près du Seigneur. À dire, Seigneur, donne-moi des choses. Seigneur, ouais, parfois le Seigneur il doit aussi être très près de nous, mettre des baffes. Mais oui, on a une responsabilité de transmettre à nos enfants les choses et l'éducation, les avertissements que le Seigneur donne. Ok. Alors, la question de ce soir, c'était, enfin de ce deuxième jour, la première, c'était à qui incombe la responsabilité d'enseigner la gestion biblique de l'argent aux enfants? À Luc, effectivement. C'est très facile de vous décharger sur moi. Ok. Les versets étaient suffisamment clairs, c'est évidemment aux parents. Mais ce n'est pas clair pour tout le monde parce que parfois, et notre système peut-être d'éducation en France peut parfois nous faire penser que ce sont nos professeurs, nos instituteurs, les personnes qui ont à charge l'enseignement scolaire, etc., qui doivent faire ce genre de choses. Et est-ce que vous êtes d'accord que à l'école primaire, on n'entend jamais parler de gérer l'argent, gérer nos ressources, gérer une petite tirelire, gérer un petit peu quelque chose? Vous êtes d'accord? Et pourtant, avant, ce n'était pas comme ça. D'accord. Avant, c'était avant. Mais c'est vrai que je ne savais pas. Mais effectivement, en tout cas, ça s'est perdu. Mais ce sont des choses qui... même dans tous les domaines, on devrait pouvoir enseigner nos enfants sur le minimum. Ça ne veut pas dire leur apprendre le calcul, etc. Il y a des méthodes que les enseignants apprennent et puis ils sont super équipés pour. Mais attention aux parents de ne pas se déresponsabiliser de ce qui est notre responsabilité en tant que parents selon le cœur de Dieu. Okay? Trois choses que les parents devraient comprendre. La première, c'est comprendre que leur rôle, quand vous êtes parents, c'est d'amener vos enfants à être matures et autonomes. C'est d'amener vos enfants à être pleinement matures et pleinement autonomes parce que Dieu nous les confie. D'accord ? Ça, c'est un des buts. C'est pas de les amener à être... sages, de les amener à être sportifs, de les amener à être, bref, mettez l'adjectif que vous voulez, mature et autonome. Ça implique beaucoup de choses. Ça, c'est la première. Mature, la deuxième, mature et autonome quand? Le délai pour ça, oui, parce qu'il y a un délai, c'est 18 ans. 18 ans, c'est le plus tard qui devrait être prêt. Pourquoi 18 ans? Parce que c'est l'âge où on est majeur en France. Voilà, aux États-Unis, ça serait peut-être 16. Contredisez-moi si jamais, je crois que c'est 16. C'est 21? Ok, 21, ok. Je crois que c'est 16 le permis, non? Ouais, ok. Ben, c'est 21, ok. Aux États-Unis, ils ont encore 3 ans de plus pour bosser. Mais en France, ça devrait être 18 ans. Alors, comprenez-moi bien, ça ne veut pas dire qu'à 18 ans, vous mettez vos enfants dehors parce qu'ils sont matures et autonomes, boum, dehors. Allez, salut. Mais être mature et autonome, surtout pour gérer leurs finances. C'est le troisième point qu'il faut comprendre. Pas la nourriture, pas le logement. Parfois, ça dépend. Mais que vos enfants, à 18 ans, ils devraient être capables de gérer leurs finances de manière autonome et de manière sage, de manière mature. Okay ? Pourquoi ? Parce qu'à 18 ans, ils pourraient dire légalement, je me barre, salut, je fais ma life. Et si une personne n'a pas eu suffisamment d'éducation, notamment dans le domaine des finances, ça risque d'être une catastrophe pour sa vie plus tard. Et on sait que l'argent nous emmène bien. Il y a des histoires dans la parole qui nous le témoignent. Le fils prodigue a dépensé tout son argent, etc. Enfin, vous voyez, c'est important. Donc, on a 18 ans, c'est long et c'est court. voilà. Mais j'aimerais faire un petit sondage. Voilà, on y est. Qui c'est parmi vous qui pense qu'à l'âge de 18 ans, il était mature, autonome, qu'il était équipé, qu'il avait tout le bagage qu'il fallait pour rentrer pleinement dans la vie active, la vie de jeune adulte à 18 ans. Voilà. Qui c'est qui se sentait vraiment bien équipé à ce niveau-là, parmi vous ? Vous pouvez lever la main, c'est un petit sondage comme ça, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de jugement, pas de... Ok ? Je pensais que vous alliez tous lever la main. Ok. Moi, j'aurais peut-être levé la main à moitié, je ne sais pas. Ouais. Mais voyez, c'est bien Ghislaine, impeccable. Mais sur le net, Gary, tu levais la main ou pas?
Ouais, j'ai levé, t'as pas vu?
Ouais, bah, je me demandais justement, derrière mon dos, il y avait quelqu'un qui levait. Et puis aussi, Josué et Clémence, je pense qu'ils levaient la main aussi.
Ouais.
Ouais. Qu'est-ce que tu disais?
Ça n'allait pas.
Ah. Oh ben c'était bien, ça fait 3 personnes sur... voilà. Ok. Vous avez compris. Pourquoi j'ai fait ça? C'est vraiment pour nous montrer qu'on a vraiment besoin. Et puis moi, sur plein d'autres sujets, j'aurais tellement aimé que mes parents m'apprennent des choses qui sont de la parole de Dieu et qui nous servent tellement, parce que la parole de Dieu est la vérité. Okay ? Et la plupart des enfants sont mal équipés à ce niveau-là. Et on en voit les préjudices. Voilà, autour de vous, vous en voyez les préjudices. Mais c'est bien qu'à tout niveau, on puisse intervenir et puisse dire, ok, peu importe notre âge, on prend conscience et puis on avance. Okay ? Super. Ça, c'était pour le deuxième jour. Est-ce que vous avez des questions ? Voilà, c'est les parents qui sont responsables d'amener à leurs enfants. Et puis, voilà, on a un délai, on a une mission qui est... parce que si on se dit, OK, on a toute la vie, et puis oh, il est encore là à 25 ans, mais j'ai encore le temps, etc. C'est pas bon. Je crois que Dieu a des principes qui nous permettent d'être cadrés dans notre vie pour qu'on puisse avancer. Vous avez tous vu le film Tanguy ? On en parle tout le temps, des personnes qui restent jusqu'à 30 ans à la maison. Ce n'est pas du tout un problème, mais ça peut l'être aussi, dans certains cas. D'accord ? Parfois, on est obligé de retourner chez nos parents, et Dieu merci qu'ils soient là pour nous et qu'ils soient là pour vous. Mais attention, parfois, il y a des cas qui sont beaucoup plus compliqués. On a besoin d'être averti. Et parfois, une éducation aurait pu éviter certaines choses. Donc, on a une responsabilité et on a du travail pour nos enfants. Et on va voir que dans le jour suivant, si c'est OK pour vous, il y a des choses assez faciles. Vous n'allez pas apprendre les intérêts composés à un enfant de 3 ans, on est d'accord. Mais on va voir comment on peut faire. OK, à 6 ans peut-être. Ça, c'est des enfants de businessman. Super. OK, alors... C'est bon pour vous, on passe au troisième jour. Le troisième jour, c'est justement comment est-ce que vous allez enseigner à un enfant de faire un budget. Déjà, il faut comprendre pour soi-même, en tant que parent, qu'un budget, c'est important. Vous n'allez pas enseigner à un enfant de faire un budget si vous-même, vous n'en faites pas. Okay, et si vous pensez que ce n'est vraiment pas cool d'en faire, vous n'allez pas dire à vos enfants, « Luc, il a dit qu'il faut que je t'apprenne, je te l'apprends, mais je n'ai vraiment pas envie. » On est d'accord ? Alors, comment faire pour apprendre à un enfant à faire un budget ? Déjà, à partir de quand on apprend à un enfant à faire un budget, d'après vous ? Ou à partir de quand on pourrait, c'est bon, selon vous, d'enseigner ça à un enfant ? 5 ans, qui dit mieux ? 6 ans, parce qu'ils apprennent à lire, d'accord ? Qui c'est qui dirait ? Dès la naissance, un budget couche, ok ? Ézéchiel ? Dès qu'on lui donne de l'argent, d'accord ? Ok ? Ok ? Mais dès qu'on lui donne de l'argent, ça pourrait dire argent de poche, d'accord ? Mais tu choisiras à quel âge de lui donner de l'argent ? C'est ça là, que je veux savoir. Pas de souci, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça ma question. En fait, c'est bon de commencer à leur apprendre ça dès qu'ils commencent à aller à l'école. Parce qu'en fait, dès qu'ils vont commencer à aller à l'école, ils vont avoir de petites responsabilités, déjà de se lever, d'aller à l'école, etc. Ils vont commencer à apprendre des choses, à commencer un rythme, et puis ils vont pouvoir commencer à mettre en pratique des choses qu'on va leur apprendre à ce moment-là. Si c'est juste à la maison, c'est pas évident, ça pourrait, mais c'est mieux dès qu'ils commencent à aller à l'école. Alors c'est une suggestion, c'est pas une règle, il n'y a pas écrit ça dans la parole de Dieu, mais en tout cas, c'est ce qui a été testé et vérifié, et puis ce qui fonctionne. Okay ? Donc, comment, d'après vous, avant que je vous donne une réponse, ou peut-être vous avez la même que moi, vous apprendriez à vos enfants à faire un budget ? Est-ce que vous avez des idées ? Il y avait dans la leçon 5 cas pratiques à nommer. Est-ce que vous en avez ? Moi, je suis preneur, parce que j'aime bien les idées. Ok, est-ce qu'on peut faire passer les micros ? Voilà, Patricia. Je vais noter en même temps.
Je dirais, par exemple, comme je pars de l'âge de 6 ans, si par exemple l'enfant reçoit, je sais pas, par ses grands-parents 1 ou 2 euros, quelque chose comme ça, lui expliquer par exemple le principe de la dîme, en lui disant, tu vois, ce serait bien de donner telle quantité. Alors 2 euros, c'est 2 pièces, mais on peut le transformer en plein de petites pièces. Et en lui disant, tu gardes 7 pièces pour toi sur 1 euro, par exemple, 7 pièces de 10 centimes pour toi, 1 pièce que tu donnes dans ta dîme, 1 pièce que tu épargnes. Et 1 pièce que tu investis. Enfin bon, l'investissement, je n'ai pas encore trouvé. Mais voilà.
Ok, super.
Moi, je commencerai à partir. On va dire que. J'ai une scène dans ma tête. J'imagine dans le salon, tu vois. Genre, le petit, je l'appelle. Tu dis assieds-toi et après je lui pose quelques questions. Genre, imaginons, je sors un billet de ma poche, tu vois, et je lui dis, je lui demande si je te le donne, tu vas revenir quoi, tu vas revenir avec quoi après, tu vois, et après il va me dire si ou ça, et en fonction de si ou ça, je vais lui dire pourquoi. Voilà, il va me dire parce que j'aime bien les bonbons, un truc comme ça, enfin bref. Et ouais, voilà. Et sinon, je lui ferai comprendre que, au final, pas que c'est mauvais, mais qu'il y a diverses manières de dépenser son argent, tout ça, tu vois. D'être visionnaire, tu vois. Je l'apprendrai à être visionnaire, en tout cas.
J'ai noté là, apprendre à réfléchir par lui-même. C'est plus, tu l'amènes à.
Ouais, par une série de questions, en fait, pour qu'ils se rendent compte. Okay.
D'accord, ça peut être une bonne solution, ok. Il va peut-être croire que tu vas le gronder avant. À toi de, Ok, très bien. Est-ce que vous avez d'autres suggestions pratiques? Alors, je te laisse la parole après, mais s'il n'y a personne, effectivement, on peut laisser Patricia. Ghislaine, ouais.
Moi, j'ai noté leur donner de l'argent de poche chaque mois, un montant fixe défini à l'avance, et leur ouvrir un compte bancaire, et aussi les responsabiliser, c'est-à-dire que s'ils perdent sans arrêt leur clé ou bien leur carte Baggio, etc. ou bien ils l'oublient, ils ont des petites contraventions, et ben qu'ils payent avec leur argent de poche. Ça leur apprendra à faire attention. Et puis, les encourager à donner la dîme sur tout argent qu'ils reçoivent, des parents ou des grands-parents, etc. Et leur dire qu'ils ne sont pas obligés de tout dépenser. Voilà.
D'accord. Donc, ça passerait plus par l'enseignement... Donc un argent de poche, d'accord. Et puis l'enseignement par l'expérience. Ouais, ok. D'accord. Rebecca, vas-y.
Moi, j'avais pensé à, quand ils sont plus jeunes, offrir une tirelire pour qu'ils puissent mettre l'argent dedans et puis apprendre justement la patience, dire j'économise pour un but et comme c'est dans la tirelire, ben j'y touche pas.
D'accord. Très bien. Une tirelire. Vas-y, Patricia.
Par rapport à apprendre la valeur de l'argent, par exemple, quand les enfants ils demandent des bonbons et ce genre de choses, de leur expliquer à leur niveau en disant ben, tu veux par exemple le paquet de M&M's, ben, concrètement ça fait 50 petites pièces que tu as, et lui dire t'en as combien dans ta tirelire ou dans ta main ou dans ta poche, et lui faire comprendre ben, si tu veux le paquet de bonbons que tu souhaites, ben, il faudra que tu attendes au moins 3 mois d'argent de poche.
Ok. Vas-y Jean, d'accord, c'est bien, c'est aussi par l'expérience, effectivement.
Ouais, juste pour revenir sur ce que disait
Rebecca.
Ouais. Rebecca, pardon. Ben justement, c'est un retour d'expérience, parce que je me souviens que mes parents ils m'ont appris ça avec la tirelire où on économise dedans, mais ce n'était pas suivi d'un but, où peut-être elle disait ben, tu fixes un truc, mais en fait, il n'y avait pas de suivi, parce que quand tu es enfant, tu ne fixes pas les objectifs comme quand tu es adulte maintenant et tout ça, et tu te fixes un but et tu t'y tiens. Moi, j'économisais, mais après la tirelire, j'ai dit, mais c'est quoi qu'on l'utilise, quoi, parce que je n'ai pas compris le but, quoi. Et c'est un peu un reproche que je fais à mes parents aujourd'hui en disant ça, que je n'ai pas compris ou qu'ils ne m'ont pas assez suivi pour que ça rentre, que derrière, ils me suivent aussi pour dire, est-ce que tu as fixé ton but? Est-ce que tu y es arrivé? Est-ce que tu as compté si tu es arrivé, après on y va, on le dépense. Et d'avoir l'accompagnement, en fait, c'est ça que j'ai pas eu. L'accompagnement jusqu'au bout, tu es arrivé au but, et ben vas-y, on va acheter ce que tu as décidé d'acheter. Tu vois? J'étais un peu laissé pour ma main, et maintenant j'en paye les dégâts dans ma vie. Et quand je fais cette formation, je rends compte tout ce que j'ai raté. Quoi.
Ouais,
et que j'ai à apprendre, mais je suis content d'apprendre.
Ok, vas-y Francine.
Alors moi, ce que j'aimerais, c'est de leur faire prendre part à des œuvres dans la générosité. Donc, soit participer, par exemple, Ethan, mon petit frère, quand j'étais bénévole à l'Armée du Salut, il est arrivé que je l'emmène. Comme ça, ça permet à l'enfant de prendre, parce qu'on a tendance, déjà à la naissance, enfin, tout petit, à être nombriliste et à penser qu'on est le centre du monde. Et donc, ça permet un peu de sortir de son contexte, de voir qu'il y a des personnes qui sont dans des situations plus fragiles que d'autres. Et voilà. Et puis aussi... dans le même cadre de, avec l'argent que l'enfant peut avoir, de prendre une partie pour soutenir des œuvres en fait, ou d'autres enfants.
Voilà. Ok, ouais, c'est très bien. Alors, souvenez-vous, la question c'était par rapport à un budget, donc ça répond bien. C'est sûr qu'un enfant de 4 ans, ça va être plus difficile d'apprendre un budget qu'un enfant de 10 ans, mais vous pouvez apprendre... à faire un budget de différentes manières selon les âges, d'accord ? Faire très simpliste au départ et puis compliquer la chose avec le temps, et puis ça parle effectivement d'expérience. Ce que je vous propose effectivement pour les enfants qui sont un petit peu plus jeunes, c'est l'expérience, ça peut peut-être les frustrer ou les bloquer tout de suite, parce que c'est ce qu'on imprègne quand on est très jeune, qui va aussi rester assez longtemps dans nos vies, enfin en principe, mais et puis l'histoire de la tirelire, effectivement, s'ils n'ont pas forcément le but c'est bien d'épargner, et puis on a tous eu une petite tirelire, effectivement. Mais ce qui est bon, quand on est plus petit, c'est de créer des mécanismes dans la tête de nos enfants. C'est-à-dire, si j'ai de l'argent, à combien ? Ah ben je peux peut-être me permettre ça. Et si je dépense tout, je ne pourrais plus me permettre pour ça. Donc il faut essayer de les amener à commencer à réfléchir. Le conseil qui nous est donné, vous allez le voir dans les leçons, ce serait de faire 3 petites boîtes. Une première boîte où il y a écrit dessus au feutre, comme ça. Ça, c'est moi qui dis, mais vous faites comme vous voulez. Une première boîte où il y a écrit « à dépenser ». D'accord ? Une deuxième boîte où il y a écrit « à économiser ». Donc, à épargner. Et une troisième boîte où il y a écrit « à donner ». Et c'est important que les enfants ils puissent voir dans cette boîte, voir le montant qu'il y a dedans pour pouvoir justement créer ces mécanismes dans leur tête et se dire « Ok, dans la boîte à dépenser, ben, alors forcément, ça implique qu'ils reçoivent un petit peu d'argent, d'accord ?» Et s'ils sont vraiment, vraiment très jeunes, vous pouvez utiliser des objets ou des choses qu'ils aiment beaucoup. Par exemple, s'ils aiment jouer avec des Legos, ou des billes ou des choses comme ça, vous voyez, vous pouvez commencer à créer le principe de « je peux donner à quelqu'un, je peux donner 3-4 billes à quelqu'un, je peux... » Alors, économiser, c'est un petit peu plus difficile, etc., ou dépenser, mais voilà, pas forcément de l'argent au départ, mais une fois que vous sentez que, oui, il y a la possibilité de donner quelque chose de façon financière, ces 3 boîtes vont intervenir et vous pourrez apprendre donc, à dépenser à votre enfant en fonction de ce qu'il a dans sa boîte, vous comprenez ? S'il a 3 euros dans sa boîte et qu'il aimerait bien s'acheter des bonbons, bah, vous pouvez peut-être dire « Ok, bah, regarde combien tu as dans ta boîte à dépenser. Prends sur ta boîte pour cette fois-ci. » Ça implique que vous pouvez aussi un jour lui faire grâce. On est d'accord. Vous pouvez dire bah, « C'est moi qui vais te payer les bonbons aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. » Et j'ai lu une fois un témoignage comme ça qu'un des papas qui disait que son fils... Comment il a fait pour lui apprendre ? Ben, il lui payait toujours, toujours, toujours des chewing-gums. Et il disait, oh, trop cool, les chewing-gums. Et il les mangeait tous d'un coup. Il y allait les manger, les manger, les manger. Et puis, il ne mesurait pas, en fait, la quantité et l'importance d'en garder pour plus tard, s'il en voulait pour plus tard. Et un jour, son père il lui a dit, maintenant, c'est toi qui vas t'acheter tes chewing-gums. Et en fait, avec ton argent. Et il l'a fait. Et il les a tous flingués en un coup. Et il s'est dit, mince, j'ai plus de chewing-gum. Papa, tu peux m'en racheter ? Ah ben non, tu t'en rachèteras la prochaine fois. Et là, il a compris qu'il devait mesurer ses ressources. D'accord ? Et c'était un exercice comme ça. Alors, dans vos exercices d'apprentissage avec vos enfants, comprenez que ce n'est pas du tout un problème d'être un petit peu strict et sévère avec eux. Enfin, peut-être ça va vous paraître, oh, il est en train de pleurer parce qu'il n'a plus de bonbons. Et c'est très important de tenir ferme dans certaines positions. Vous allez le mesurer vous-même. Mais si vous craquez à chaque instant, il ne va pas apprendre. Okay ? Donc, le principe de la boîte à dépenser, le principe de la boîte à économiser, on l'a dit effectivement, c'est toujours mieux d'avoir une tirelire avec un objectif. La tirelire, on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Enfin, moi, je me souviens de ma tirelire, je pouvais enlever le dessous comme ça et voir ce qu'il y avait dedans. Il y avait des billets de 50 francs et tout ça. Je m'en souviens, j'ai une image. Mais je prenais dedans et parfois, il n'y avait plus rien dedans et j'étais trop dégoûté. Mais effectivement, la tirelire, pour moi, c'est un petit peu un compte comme une carte de crédit, etc. Bah, tant qu'il y en a, je peux payer des trucs et tout. Mais la boîte économisée, c'est vraiment pour un objectif. « Ah, papa, au moment, j'aimerais vraiment m'acheter ce ballon de foot. » Ok, t'en as déjà 3 à la maison. T'as vraiment envie de l'acheter, il n'y a pas de problème. Tu prends dans ta boîte, tu vas économiser pour ça et tu vas mettre, chaque fois que tu reçois de l'argent, tu vas mettre 1 ou 2 euros ou 10 euros, ça dépend ton ballon, combien il coûte. Voyez ? Et ça permet de commencer à comprendre un mécanisme d'épargne, mais pour un objectif, d'accord ? Ce qui est aussi intéressant de faire, c'est peut-être de dire « Ok, ben, on est en août, ben, jusqu'en décembre, tout l'argent que tu reçois, tu le mets de côté et maman et papa ils s'engagent à combler la somme qui te manquera, par exemple. Donc, ça lui donne aussi un délai, une deadline, etc. Vous pouvez le faire sur ça aussi. Mais toujours avoir un objectif. Et la boîte à données, c'est très intéressant d'enseigner à nos enfants de donner très jeune, parce que ça va être un vrai plus pour leur vie plus tard, d'être généreux. Parce que la générosité, quand on l'apprend plus tard, c'est plus compliqué. Ça peut être plus compliqué parce qu'on a de l'expérience, on a du vécu, on en a déjà parlé par rapport à la libéralité. De l'apprendre très très jeune, c'est un plus. Et effectivement, d'avoir une boîte à données, vous avez parlé tout de suite de la dîme, je trouve que c'est une bonne chose de l'enseigner aux enfants et que ça devienne un mécanisme. Mais surtout, attention, de leur faire comprendre et leur montrer aussi que Dieu bénit. Parce que quand on est enfant, on ne comprend pas peut-être que Dieu bénit et pourquoi on le fait, etc. Et c'est surtout le cœur, si c'est maintenant la dîme, de le faire comprendre le cœur de cette dîme. Et le principe, d'accord ? Pas juste le montant financier qu'il va avoir dans sa boîte, d'accord ? Avec des mots qui sont adaptés à votre enfant. Là, c'est beaucoup de théorie, etc. Il faudrait qu'on puisse mettre ça en pratique. Mais enseignez-le à vos enfants. Et grands-parents, enseignez-le à vos petits-enfants. Ça marche aussi. Et voilà. Donc, donner très jeune, c'est une très bonne chose. Et vous l'avez dit, Francine, je crois que tu l'as dit, pour des œuvres de charité, voilà, ça peut être vraiment. Il y a des enfants qui ont eu très jeunes, qui ont eu part à des actions comme ça dans des œuvres missionnaires, vous les envoyez en vacances, dans une colo, etc., où ils vont faire ce genre de choses. Et plus tard, c'est marrant, c'est l'appel que Dieu avait pour leur vie, et ils se souviennent de ces expériences tout petits. Et ça les a tellement marqués qu'ils donnent leur vie entière ensuite pour les pauvres, ils donnent leur vie entière pour soutenir, pour s'investir pour les pauvres. Enfin, c'est un exemple. Mais quand on est très jeune, c'est là qu'on a beaucoup de place dans notre cœur et où c'est facile de planter. Plantons des bonnes choses, d'accord ? Des bons principes. Est-ce que ça vous parlait ? Donc, trois petites boîtes, c'est quelque chose de très simple. Et puis, ces boîtes, bien sûr, les surveiller. Et les aider, les accompagner, vous l'avez dit, il y avait un suivi personnalisé, j'ai noté, pour une épargne, pour un investissement ou pour donner. Et ça, c'est super. Ok. Faire comprendre à nos enfants que donner, c'est normal, c'est un pas énorme, enfin, c'est quelque chose d'énorme de gagner dans leur vie parce que je ne sais pas comment vous l'avez expérimenté. Moi, parfois, j'ai tellement de mal parfois à donner que je me dis, punaise, si ça avait été enseigné, mais vraiment ou rabâché dans ma jeunesse. Et pourtant, mes parents étaient des personnes qui donnaient sans problème, c'était des gens généreux. Mais je n'ai pas compris forcément toujours les principes et les choses qui devaient rester. Souvenez-vous du verset d'aujourd'hui, c'est vraiment d'enseigner. On doit recevoir un enseignement. Et si ce n'est pas la parole de Dieu qu'on enseigne, ça ne va pas rester. Enfin, ça peut ne pas rester, d'accord ? Parce que la parole de Dieu, une fois qu'elle est plantée, elle peut porter du fruit bien des années après, d'accord ? Et c'est la parole de Dieu qui est vérité, qui doit être plantée. Elle ne revient jamais à Dieu sans avoir fait quoi ? Son effet, d'accord ? Donc c'est important que vous plantiez des bonnes choses. Et on arrive sur le jour 4 qui nous pose la question justement, enfin, où il est posé la question suivante, comment enseigneriez-vous à vos enfants à épargner ou à investir ? Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé. Ça nous ramène à la session dernière où j'avais dit qu'effectivement, il fallait un objectif, un but, pourquoi je vais économiser, une somme à atteindre. Ou alors j'épargne régulièrement une telle et telle somme d'argent jusqu'à une certaine deadline, d'accord ? Et j'expliquais le principe du ballon qui coûterait 7 euros et si mes parents donnent 10 euros par mois et que j'ai plus que 5 euros dans ma boîte à économiser, voilà, ben, sur mes 10 euros, je dois encore prendre 2 euros, mais je dois attendre ce délai-là où je vais les recevoir pour m'acheter. Donc ça apprend aussi quoi ? Ça apprend aux enfants à être pas dans la consommation immédiate, Et on l'a vu, le monde est vraiment en train de nous diriger dans ça. Et moi, je veux ça maintenant. D'accord ? Donc, ça nous apprend aussi à être patient. La fois prochaine, on va parler d'un thème qui est en rapport aussi avec ça, qui est le contentement. D'accord ? Et c'est important parfois aussi de s'arrêter, de se dire, OK, j'ai suffisamment. Donc, parfois, les enfants, ils sont souvent comblés à tous égards et ils veulent encore plus. D'accord ? Et de leur apprendre ça aussi, c'est très bon, très jeune. Moi, en fait, j'ai un petit témoignage. Quand j'étais ado, j'ai appris la batterie, à jouer de la batterie à l'âge de 10 ans. Et mon père m'avait acheté une petite batterie. C'était le fils de ma gardienne qui était aveugle qui m'a appris la batterie. Et il m'a acheté sa première batterie, basique, vraiment un kit très basique. C'est mes parents qui me l'ont payé. J'ai commencé à apprendre chez moi à la maison avec ça. Puis ensuite, ils m'en ont acheté un peu mieux. Mais toujours, c'était mes parents. Et puis c'était une super batterie, enfin, une batterie voilà, qui se respecte. Mais au bout d'un moment, quand on apprend un instrument, ils ont vu que j'étais super passionné, et puis voilà, ça a tenu jusqu'à aujourd'hui, merci Seigneur. Et en fait, j'avais envie de m'acheter un instrument bien meilleur. Je me dis, waouh, ben, il faut vraiment que je puisse m'investir, ou investir dans un instrument qui sonne bien mieux que ça. Et mes parents, ils m'ont dit, OK, on est d'accord, mais c'est toi qui vas te le payer. Et au lieu de dépenser l'argent que tu reçois à Noël, ou, etc., tu vas les mettre sur un compte, ou tu vas les mettre dans une enveloppe, c'était plutôt une enveloppe, on va les mettre bien au chaud, et tu n'y touches pas. Et vous savez ce que ça m'a enseigné ? Ça m'a vraiment enseigné à dire, OK, qu'est-ce que je veux réellement ? Et j'y pense maintenant, parce que je ne l'avais pas noté, mais c'est vrai, qu'est-ce que je voulais réellement ? Est-ce que je le voulais, cet instrument ? Ou est-ce que, tiens, je ne pourrais pas taper un peu dans l'enveloppe ? Sur un compte en banque, vous n'allez pas pouvoir taper si facilement. Mais dans une enveloppe, c'est... voilà. Alors, bref, vous faites la méthode que vous voulez. Mais en fait, pendant... Je ne sais pas, j'ai épargné pendant bien des années, en fait. Je me souviens que c'était assez long et tout. Parce que l'instrument coûtait vers les 1 200 €. Donc, on ne reçoit pas 500 € à Noël comme ça. Hein, vous êtes d'accord ? Et puis, c'était encore en francs. Et en fait, un jour, je ne sais plus à quel événement, mais il y avait un événement. Et puis... Mes parents, ils ont vu, ils ont dit, waouh, là, il est vraiment déterminé à acheter cet instrument, mais il lui manque tant et tant. Et ils sont venus vers moi et ont dit, Luc, on a vu que tu étais fidèle dans ton épargne, ce qui te reste là, nous, on va t'aider, on va te soutenir. Et là, j'étais trop content, j'ai fait, waouh, c'est pour maintenant et tout, et je n'ai pas encore besoin d'épargner. Et j'ai senti, et c'est marrant, dans cette formation, je prends vraiment conscience comment mes parents ils m'ont fait grâce dans plusieurs situations. Vous vous souvenez, je vous avais parlé de la voiture et tout, avec mon père, mais là aussi, ils m'ont fait vraiment une grâce et ils m'ont dit, punaise, trop, trop cool, quoi. J'ai vraiment pu... Et puis, je me suis acheté une batterie, vous l'avez peut-être déjà vu une fois, c'est la batterie que j'ai au studio. Je l'ai encore aujourd'hui. Et ouais, je l'ai encore aujourd'hui. Mais j'ai pu m'acheter cet instrument neuf, semi-pro et tout. Et puis voilà, je me suis vraiment... j'étais content. Et quand vous avez économisé, épargné pour un objectif et que l'objectif, vous l'atteignez, waouh, mais alors là, c'est vraiment c'est épanouissant, c'est trop cool. Okay, ça porte vraiment un effet. Et je crois que Dieu nous aide vraiment déjà à réaliser ce genre d'opération, l'épargne, mais à aller jusqu'au bout, à recevoir la satisfaction, la joie qu'on a le droit d'expérimenter, en fait, quand on arrive au bout. Okay. Et justement, parfois, c'est bon de savoir se priver, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, de se priver un temps, de ne pas dépenser maintenant pour avoir de quoi dépenser plus tard. Okay ? À nous de travailler à ça. Ok. Alors, j'ai noté quelques idées encore qui pourraient nous aider à enseigner à nos enfants comment investir et comment investir. Par exemple, j'avais entendu de faire un jardin avec eux. Et c'est un truc que j'avais découvert. Je fais, c'est cool. C'est pas avec de l'argent, mais avec un jardin, on peut enseigner à nos enfants d'investir. Donc, si vous avez une petite parcelle de terrain, vous pourriez enseigner, voilà, on va cultiver ensemble. Cultiver, c'est quoi ? C'est on va travailler. On va semer, on va commencer à cultiver, on va entretenir. Entretenir, c'est prier, par exemple, d'accord ? Entretenir ta semence, on va la faire qu'elle se sente bien, qu'elle soit dans les meilleures conditions. Et une fois qu'on va récolter les légumes, on va en prendre une partie pour épargner. Voilà. On va en prendre une partie pour vendre, pour se faire un bénéfice, ou alors pour échanger contre autre chose, etc. Mais de comprendre cette notion d'investissement. J'investis mon énergie, j'investis mon temps, j'investis mes ressources, ok ? C'est de la semence, c'est des graines, etc. Et puis, je me mets au travail, et puis au bout d'un moment, j'ai une récolte. Okay. Et ça permet d'avoir... Est-ce que c'est clair pour vous ? Est-ce que ça permet d'avoir un petit exemple comme ça qui est pas forcément financier au départ, mais qui est vachement parlant pour un enfant ? Je crois que tous les enfants sont capables de comprendre ça. Peut-être pas à 3 ans. Quoique, Éline, je crois que j'ai déjà fait tondre le gazon chez moi. Voilà. Ok. C'était un exemple que j'avais pas. C'est pas moi qui ai été inspiré de ça. C'était une personne qui m'en avait parlé. Et puis j'ai trouvé ça vachement intéressant. Il y a plusieurs autres. Est-ce que vous en avez d'autres exemples peut-être? Est-ce que quelqu'un voudrait partager une façon dont. Ouais. Ça, je trouve que c'est une super bonne idée pour faire comprendre à mon fils, ma fille, comment je peux investir, comment elle peut investir. Non, pas plus que ça. C'est vrai que c'est un domaine qui est assez compliqué et je n'ai pas toutes les clés et toutes les solutions ce soir. C'est pour ça que n'hésitez pas à intervenir. Mais n'hésitez pas aussi, si vous lisez des livres ou si vous avez des bonnes ressources, à nous les partager. Parce que, Mathieu, je vois Mathieu, mais on est des personnes qui avons des enfants en bas âge. Vous avez peut-être des personnes autour de vous qui gravitent et qui ont eu justement l'enseignement et qui sont au top dans ce... Dans, je sais pas, Famille Je T'aime ou j'en sais rien, des ministères qui ont vraiment toutes les clés, n'hésitez pas à nous en faire part parce que c'est important.
C'est bien d'avoir un but. Quand l'enfant il sait qu'il y a un but, alors il agit. Enfin, moi je sais que j'étais plus enfant, mais bref, j'étais. Un jour, j'ai dit à mon père, achète-moi une mobylette. Quoi. Tout le monde avait des mobylettes. Il m'a dit non. Il m'a dit, je t'en achèterai jamais. Et je dis, ouais, mais mon frère, il en a une. Il dit, ouais, mais toi, tu n'en auras pas. Donc, il m'a dit, par contre, quand tu auras 18 ans, je t'achèterai une voiture. Mais on va partager. Je t'en achète la moitié et toi, et moi, je n'avais pas d'argent. Quoi. Mais ça m'a permis de comment ? De garder de l'argent de côté pour le jour où j'achèterai la voiture. Et donc, quand j'ai eu 18 ans, le jour de mes 18 ans, quand je suis descendu dans le garage, j'avais une voiture. Et par contre, mon père il m'a dit, bah, faut t'en payer la moitié. C'était pas grand-chose. Hein, la voiture elle valait 400 francs, ça je me rappellerai tout le temps. J'en ai donné 200 et il m'a dit, je te les repaye. Mais ça permet de ça, c'est quelque chose qui marque quand on a un but. Alors, voilà. La mobilette était passée, c'était la voiture.
C'était la voiture. Voilà. Excellent. Ouais, merci pour le témoignage, Raymond. C'est vrai que, en fait, il y a une motivation, il y a quelque chose, une sorte de carotte au bout, et ça nous permet vraiment de... Après, effectivement, faut que quand on donne des objectifs, par exemple, à nos enfants, parce qu'en tant que parents, on a quand même un peu un regard avisé sur les choses. Si les enfants, ils épargnent pour, j'en sais rien... s'acheter un bras bionique et tout, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ou des chaussures qui servent à rien. Enfin, j'entends des gens, des jeunes qui sont autour de moi, que j'ai vus au lycée, ils ont des buts, des rêves, des choses vraiment absurdes, etc. Ou si c'est pour un but d'épargner pour s'acheter de la drogue et tout. Voilà. On ne va peut-être pas rencontrer ce cas-là, mais en tant que parent, on a vraiment aussi le devoir d'être... des personnes de conseil et des personnes d'autorité, on est d'accord. Vous ne laissez pas votre enfant épargner pour n'importe quoi, mais surtout, si vous vous engagez avec lui, accomplissez ce pourquoi vous vous êtes engagé. Parce que rien de plus... ça, c'est aussi très, très marquant. Aussi, la joie qu'il y a d'y arriver, c'est une chose tellement épanouissante. Mais la déception qu'il y a aussi derrière de ne pas voir... une parole être honorée derrière. Attention, nous, en tant que parents, c'est très important aussi pour nos enfants. La question suivante, comment leur transmettriez-vous le principe biblique de ne pas s'endetter ? Parce qu'on est tous convaincus que s'endetter, ce n'est pas une bonne chose. rassurez-moi. Comment vous allez le faire pour le transmettre? Peu importe l'âge, mais vaut mieux leur faire comprendre très tôt, d'après moi.
J'ai une idée, je ne sais pas si elle est valide, mais j'oblige Emma à s'acheter quelque chose qu'elle ne veut pas et je lui prends un intérêt sur 2 ou 3 ans à 100%. Donc, comme ça, elle comprend que ce n'est pas bien de s'endetter et qu'elle est esclave de son père.
Qui c'est qui a une solution à proposer? Qui c'est qui veut prier pour notre pasteur aussi?
Ou pour Emma?
Pour Emma. C'est pas évident, j'avoue qu'en y réfléchissant ou en creusant, c'est pas évident. Mais ok, vas-y Rebecca.
Nous on avait pensé de porter l'intention à l'enfant du principe de prêter, de rendre. Pas forcément tout, quand il est petit, tout de suite avec de l'argent, mais avec des objets. Par exemple un jouet, un stylo, de dire que on te l'a prêté. Mais comme on te l'a prêté, tu vas devoir le rendre et tu vas devoir en prendre soin. Ou si tu donnes quelque chose, tu l'as donné, tu ne vas pas le reprendre. Voilà.
Super. Moi, je trouve ça super cool. Je préfère l'exemple de Rebecca que celui de Mathieu. Tu m'en voudras pas. Ok, il y a Patricia. Mais super. Effectivement, je n'y avais pas du tout pensé. Et c'est quelque chose qui, je crois, est très, très parlant. Mais pour tous les enfants à l'école, on prête. Ah, tu m'as donné, et puis il y a des conflits, etc. Donc, effectivement, ça peut être très, très bien de... Et ça, on peut apprendre ça très, très tôt. Oui, Patricia.
Alors, ça serait pour des enfants peut-être un peu plus grands, par exemple 10 ans, sur par rapport au dialogue, leur dire, par exemple, admettons que tu veuilles, acheter un jeu vidéo. Nous, en tant que parents, on te le donne, mais... on le paye pour toi, mais par contre... comment dire ça? Tu nous seras redevable régulièrement de nous donner de l'argent. Et si tu ne le fais pas, par exemple, tu auras des corvées. Admettons, il n'a pas les moyens. Enfin, pas les moyens. Il est censé donner 10 euros ou 5 euros par semaine et il ne peut pas parce qu'il a tout dépensé dans les bonbons. C'est de lui dire, tu n'as pas pu nous donner l'argent. Du coup, tu as une corvée. Et de dire, en gros, tu es esclave de la personne à qui... Enfin, d'une façon, je ne sais pas si c'est très gentil. Mais en gros... T'es redevable de la personne à qui initialement t'a donné le cadeau que tu voulais. Je ne sais pas si c'est... Ouais.
C'est, je trouve aussi un bon exemple, effectivement. Et ça peut s'apprendre aussi très tôt. Peut-être pas forcément avec de l'argent, etc. Mais oui aussi. Mais souvenez-vous, quand on a parlé des dettes, etc., un truc qui est vachement important de faire... lorsque c'est surtout avec vos enfants, etc., c'est de quoi? C'est de définir un contrat de, entre guillemets, remboursement. D'accord? Si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on est? On est appelé des méchants. D'accord? Quand on ne rend pas. Et ça peut être bien de l'apprendre, effectivement, à nos enfants de cette manière-là. On peut faire des avances sur un achat, etc., et leur donner le contrat. Et vous savez quoi? Si les enfants ont un repère dans la maison où il y a écrit le contrat, où ils peuvent, quand ils passent tous les jours devant, j'en sais rien, sur un tableau ou dans leur chambre, etc., vous leur inscrivez. C'est marquant pour eux de dire, ok, tu te souviens du contrat? Alors là, je parle des enfants qui ont en dessous de, j'en sais rien, 7 ans ou 10 ans. Mais ça parle, en fait. Et puis ça, tu te souviens, avec papa, maman, tu as défini ça, on y va, on y retourne, viens, on va voir, on va lire ensemble le contrat, tu ne l'as pas respecté. Et de dire, quelles sont les conditions aussi de non-respect, en cas de non-respect. Et parfois, on peut faire des choses très enfantines, etc., et dire, ok, tu voulais sortir jouer avec tes copains, ce sera pendant 2 semaines, non, voilà. Mais de leur faire comprendre la notion d'engagement aussi, qu'effectivement, dans une sorte de dette envers leurs parents, ils doivent s'engager à rembourser. Et je trouve ça cool, je trouve ça bien, et je vais le noter effectivement aussi dans mon dossier, de faire une avance d'argent sur un achat et puis d'engager l'enfant à rembourser, à rendre à ses parents ce qu'il leur devait. Et si vous êtes des parents sympas, vous pouvez leur enseigner la notion de grâce aussi, leur dire, ok, tu as remboursé pendant un certain temps, tu as été fidèle, maintenant tu n'as plus besoin, le reste on te l'offre. on a vu que tu as compris, et puis leur enseigner la grâce aussi. Voilà, ça peut être quelque chose de super pour leur faire comprendre deux aspects, l'endettement et la grâce. Et parfois, on va le voir après. Vas-y, Ézéchiel.
Mais ça vaut pour quel type de cas, par exemple, vis-à-vis de l'enfant? Ouais, je veux dire, à chaque achat, on ne va pas lui dire « tu vas nous rembourser ça ». Tu vois, enfin, c'est ça que j'ai du mal à distinguer, en fait. Parce que, bon, les petits, on leur fait des cadeaux parfois. On pourvoit leurs besoins. Et bon, ça, je sais qu'on ne va pas leur demander de l'argent pour ça. Mais, je veux dire, dans quel contexte?
Alors, déjà, quand c'est la nourriture, le logement, etc., c'est pas bon de le faire. Parce que ça, c'est ce que, en tant que parent, vous devez à vos enfants. Et attention, ne pas sortir dans le cas du cadre aussi contextuel de la loi. Quand vous avez des enfants, vous devez prendre soin d'eux, d'accord? Donc, si un jour, il y a votre enfant qui raconte à l'école que vous ne l'avez pas nourri parce que parce qu'il n'a pas tendu le gazon,
bien sûr.
Faites attention. Mais d'accord. Mais après, c'est les parents qui définissent, voilà, ben, là, j'aimerais bien lui apprendre la notion d'endettement. Qui peut être dangereuse pour lui. C'est mes points suivants. C'est le fait d'enseigner le danger des crédits. C'est important parce que dans notre monde où on est confronté à ça régulièrement, les enfants qui grandissent actuellement, c'est comme les iPads, les téléphones, les écrans, etc. Les enfants de notre génération, ils sont beaucoup plus confrontés que des générations passées. On est d'accord. Mais ça va aussi avec l'évolution. Attention, les crédits, ça a tendance aussi à venir. C'est un danger qu'on aimerait faire éviter à nos enfants. Donc apprenons-leur dès que c'est le moment. Et ça, après, on le sent en tant que parent. Ce n'est pas forcément pour tous les cas d'achat. Je pense qu'il ne faut pas t'inquiéter. mais effectivement, c'est important. Et vous allez mesurer un moment donné de leur vie où, ben, quand ils sont avec leurs potes, etc. « Ah, maman, moi, je veux aussi un téléphone. Je peux faire mes achats par téléphone maintenant. » Ah, d'accord. Ben, il va peut-être falloir que je t'apprenne certaines notions. On est d'accord. Vous voyez, il y a plein d'exemples comme ça, c'est pas figé, mais c'est important de comprendre le principe qu'enseigner, c'est pour les avertir. Et on va le voir par la suite. Vas-y.
Ouais, bah, du coup, moi, ce que je comprends, c'est que dès qu'on sent que l'enfant s'approche d'un domaine où on sait que dans le monde, ceux qui produisent ce genre de choses sont un petit peu, on va dire, rapaces. Je sais pas comment expliquer ça. C'est à partir de là qu'il faudrait lui apprendre que... Voilà. Alors, quoi. Par exemple, comme tu dis, tout ce qui est iPhone, iPad, quand il s'approche de n'importe quel domaine qui pousse, on va dire, à la consommation excessive.
Alors, en fonction de notre contexte, moi j'ai grandi dans une famille à la campagne. J'ai rencontré plus tard des amis qui ont grandi en ville. Ils avaient des notions complètement différentes des miennes, je veux dire. Je pense que c'est au cas par cas où il va falloir effectivement évaluer ça. Mais par exemple, et là je vais en venir avec un petit témoignage. Justement, j'expliquais que le principe, c'est d'enseigner à ne pas dépenser plus que ce qu'on a, en fait. Et c'est ça l'endettement. C'est de dépenser plus que ce que vous avez confié à votre enfant. Donc s'il n'a pas, ben, il ne dépense pas. Et c'est pas plus compliqué que ça, d'accord? Et surtout aussi les conséquences de l'endettement. Alors, éviter, et moi je préfère en fait apprendre en évitant les problèmes que plutôt d'être dans le problème pour apprendre le principe qui me l'aurait fait éviter, parce que vous comprenez. Souvent je me suis pris des baffes dans ma vie, j'aurais préféré avoir l'enseignement avant, éviter le problème et me dire « Oh purée, je suis passé à côté de quelque chose qui m'aurait mis des sérieuses baffes ». Et parfois, j'ai dû vraiment me brûler les doigts pour me dire, voilà, ben, maintenant, tu as compris, tu l'as fait. Voilà. Et par exemple, moi, quand j'étais en âge de comprendre, mon père, en fait, m'a dit que fumer des cigarettes, ça n'allait pas m'apporter quelque chose de bon, que ça n'allait pas me faire du bien, et que si je le faisais, je risquerais telle et telle conséquence. Mais en fait, il m'a pas interdit de le faire. Enfin, je m'en souviens pas, en tout cas. Il m'a pas dit, si je t'attrape avec une cigarette... Voilà. Mais il m'a vraiment déconseillé de le faire. Il me l'a déconseillé fortement, d'accord? Et en fait, ce qui est marrant, alors ça, je sais même pas à quel âge c'était, je me souviens plus si c'était quand il commençait à voir que je fréquentais genre, des jeunes qui pouvaient effectivement fumer. Mais les occasions se sont présentées. On m'a demandé, tiens Luc, tu veux une cigarette et tout, fume avec moi et tout. Et en fait, j'ai pas voulu fumer. Et jusqu'à ce jour, j'ai jamais fumé une seule cigarette. Une fois, j'ai fumé un bout de bois peut-être. C'était la seule chose que j'ai fumée. Mais je pense que c'était avant le, c'était un bout de bois creux et tout. C'était chez ma nounou chrétienne, elle le sait même pas. Mais c'est dans le bois, dans le talus qui fumait. Voilà, les mauvaises herbes et tout ça. Mais j'ai jamais fumé de cigarette parce qu'en fait, j'avais tellement compris ce que mon père m'avait enseigné et un enseignement a suffi à ce que j'ai le déclic dans ma tête et me dire, ok, attends, Luc, tu fais confiance à ton père ou pas? Bah oui, ok. Est-ce qu'ils veulent bien pour toi? Oui, ok. On est d'accord. Eh bien, si tu fais ça, c'est pas bon pour ta vie. C'est pas bon pour tes poumons, c'est pas bon pour ci, c'est pas bon pour ça, etc. Et en fait, je l'ai juste compris, je l'ai gardé et j'ai dit, je bougerai pas ma position là-dessus. Détermination. Et en fait, quand on enseigne nos enfants très tôt, c'est là où le verset dit, bah, plus tard, ils reviendront à l'enseignement, c'est que sûrement, ils vont être confrontés à un exemple, à un cas pratique, où ils disent, ah, moi, j'ai appris ça, et je sais ça, maintenant, je vis ça. Qu'est-ce que je choisis? Et là, ce sera leur choix. Et effectivement, c'est important de leur enseigner la parole, mais aussi après de prier pour eux. Et c'est dans ces moments-là qu'ils auront besoin, effectivement, d'être arrosés de prière. Donc, voilà. Mais si on enseigne nos enfants, si on enseigne la parole de Dieu à nos enfants, ils vont être équipés pour ne pas tomber dans les pièges. D'accord? Parce que la parole de Dieu est quand même beaucoup plus efficace qu'un enseignement tiré de notre propre sagesse. Et c'est important de leur communiquer ces enseignements-là. D'accord? Et fumer une cigarette, c'en est un exemple. Mais du coup, ça m'a amené à ne jamais fumer de joint, jamais prendre de drogue, jamais, etc. Mais pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas eu besoin. Mais vous, est-ce que vous comprenez, d'accord? C'est dans tous les domaines comme ça. Si j'avais su dans bien d'autres domaines et eu un enseignement, des avertissements, je crois que des avertissements, pas des interdictions. Parce que les interdictions, on a toujours envie de les contourner et puis d'y aller quand même. Mais des avertissements, des conséquences, un enseignement profond et puis juste du temps avec mes parents peut-être. Sur certains autres domaines, j'aurais pas fait certaines choses dans ma vie que j'ai fait. Et j'en ai aussi eu les conséquences. Dieu est grâce, je suis d'accord. Il nous sort des problèmes, il nous sort après de la muise où on s'est mis nous-mêmes. Mais parfois, c'est douloureux et ça laisse des traces. Et puis, le temps qu'on guérisse sur certaines choses, ça met du temps. Ok, donc, un bon enseignement peut vraiment faire une différence dans la vie d'un jeune et d'un enfant. Et pour compléter justement cette partie, j'aimerais revenir sur un verset qui a été dit la dernière fois lorsqu'on parlait d'héritage. Dernière session, je me souviens en avoir parlé, j'ai pris avec l'exemple de Josiane, de Raymond, etc., l'héritage. Et j'aimerais prendre Proverbe 13, verset 22, qui dit « L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, tandis que les richesses du pécheur sont en réserve pour le juste. » C'est la première partie de ce verset qui est intéressante. Donc c'est Proverbe 13, 22, pour ceux qui notent. « L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. » Et là, j'ai regardé un petit peu toutes les versions pour savoir si est-ce que c'était une traduction qui était un petit peu faite dans ce sens-là ou pas. Mais la traduction du grec original, c'est vraiment l'enfant aux petits-enfants, d'accord? Donc c'est les enfants de vos enfants. Donc c'est bien la bonne traduction. Alors réfléchissons ensemble. Et j'insiste. Une fois que vous avez noté, regardez-moi. Pas dévisagez-moi, mais regardez vers moi. Alors, la question que je vous pose, c'est habituellement, quel âge ont les enfants, c'est une question un peu glauque, hein, quel âge ont habituellement les enfants lorsque leurs parents décèdent? En moyenne, ouais. Cinquante, soixante, Vous êtes d'accord? Entre 50 et 60. Ok, on va prendre ça comme pour l'exemple ce soir. 50 ou 60 ans. Deuxième question. À ce moment-là, quel âge ont les petits-enfants? Les petits-enfants. Les petits-enfants des grands-parents, d'accord? De ceux qui décèdent. Allez, entre 20 et 30 ans, c'est une bonne réponse pour ce soir. Ok? Il y a des cas un petit peu bizarres qui peuvent sortir de ça, mais en moyenne, hein, c'est habituellement entre 20 et 30 ans. Ok, dernière question. À quel âge pensez-vous qu'on ait besoin d'un héritage financier? Plus à 50 ans ou plus à 20 ans? À 25. On est d'accord? C'est à 20 ans. Ok? C'est pourquoi, en fait, alors là, on a fait un raisonnement tout à fait humain, tout à fait naturel. Bibliquement, l'héritage est censé être donné à nos petits-enfants. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa pensée, dans son intelligence, dans sa nature, il a toujours une pensée trigénérationnelle. Il pense toujours trois générations. Les parents, les grands-parents, les parents et les enfants. En suivant ce schéma, justement, le schéma que les grands-parents bénissent leurs petits-enfants, il y a un cycle qui se met en place et chaque génération est bénie. Et si vous faites ça et si vous inculquez ça à vos enfants, à vos petits-enfants, etc., il y a un roulement qui se fait. Et Dieu, dans son principe trigénérationnel, eh ben, la bénédiction est assurée. Est-ce que vous comprenez? En fait, quand on suit ce schéma, chaque génération, elle évite de s'endetter. Parce que c'est français, ça. Chaque génération, en fait, n'a pas besoin de s'endetter. Si vos grands-parents lèguent leur fortune, et on va revoir ce terme, à leurs enfants, les petits-enfants ne vont peut-être pas être bénis. Il y aura peut-être un break, quoi. Si vous enseignez vos enfants et vos petits-enfants, et si vous transmettez à vos petits-enfants, qui eux transmettront à leurs petits-enfants, vous bénissez trois générations et ça tourne, d'accord? Parce que forcément, la bénédiction va aussi passer par vos enfants, d'accord? Est-ce que c'est clair? Ça vous paraît chinois? Je parlais du terme « fortune ». Dans un cours précédent, on avait vu c'est quoi la fortune. Et justement, la bénédiction de Dieu sur trois générations, elle passe par la fortune. Et là, on va revoir quelques infos, quelques principes, quelques clés sur la fortune. Tout d'abord, sur Internet, tout ça, ça va pour vous? Vous arrivez à suivre? Vous avez des questions?
Non, ça marche.
Ok, on peut avancer alors, c'est bon pour vous? N'hésitez pas, hein, si jamais.
Ouais, pas de souci.
Ok. Alors, la fortune, c'est un petit rappel, une petite piqûre de rappel. La fortune, elle se traduit en deux choses. La première, c'est les aptitudes, souvenez-vous. C'était le comment faire. Les aptitudes, le comment faire. Et la deuxième, c'est les traits de caractère, c'est le comment être. Quand une personne, selon le cœur de Dieu, est fortunée, elle a des aptitudes et elle a des traits de caractère selon le Seigneur. Et Dieu a des traits de caractère extraordinairement intéressants. Si on développe justement la fortune, on a vu que les richesses vont en être une conséquence. Vous vous souvenez? Mais pas l'inverse. Si vous développez vos richesses, ce qu'il y a dans le portefeuille, vous ne pouvez pas forcément développer la fortune. L'inverse, oui. Ou les richesses ne produisent pas de fortune. Donc, lorsque des grands-parents développent leur fortune, forcément, il va y avoir des richesses. Et si tout ça, ils le transmettent à leurs petits-enfants, il va y avoir un cycle qui va se mettre en place. On va voir par quoi ils passent. Et c'est là où on va creuser par rapport à la dernière fois la notion de fortune. La notion de fortune, elle est toujours l'unité, comme la distance, vous la mesurez en mètres, le poids vous, en kilos, etc. L'unité pour mesurer la fortune, ou pour pas, peut-être pas le mesurer, mais l'unité de base de la fortune, c'est la famille. Ce soir, on est dans l'éducation, c'est la famille. Le pipeline, donc c'est le tuyau par lequel Dieu envoie sa bénédiction, c'est toujours la famille. Si vous affaiblissez ou vous détruisez la famille, vous coupez le pipeline, c'est dur à dire, de la fortune. D'accord ? Pourquoi le diable s'attaque aux familles ? Parce que s'il pète les familles, il pète la fortune. Et il pète quoi ? Il pète l'héritage des enfants de Dieu. La fortune que Dieu voudrait nous donner, c'est d'abord des aptitudes, c'est des traits de caractère qui vont produire des richesses. Et tout ça, ça va tourner et ça va être une bénédiction pour chaque génération normalement. Et qu'est-ce qui se passe quand on affaiblit ou on détruit la famille ? C'est la génération suivante, elle repart à zéro. Allez, c'est reparti. Il y a peut-être une grâce pour la génération suivante. Ils vont se tourner vers Dieu. Ça va être un super réveil, un super miracle dans la famille, etc. Mais ils ne vont pas se baser sur l'acquis de la génération d'avant. Et c'est ça le problème. C'est que, et on le voit dans la parole de Dieu, il y a souvent des générations comme ça qui ont été super fortes. Et puis après, vous lisez dans Roi. Un roi, il marche avec Dieu. Son fils, il ne marche pas avec Dieu. Le fils, il marche de nouveau avec Dieu. Et ensuite, vous l'avez lu, ces passages et j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, mais c'est fou. Pourquoi les papas, ils n'ont pas transmis... Ils ont transmis quoi ? Ils ont transmis la fortune. La richesse. Ils ont transmis la richesse. Le fils, il avait un super palais. Quand le père, il est mort, il avait tout le palais. Mais comment il savait comment il fallait faire pour le gérer ? Ben ça, c'est la fortune, c'est les aptitudes, c'est le caractère. Et ça, ben, il ne l'avait pas. Donc, chut, tête plongeante dans le gouffre. Et c'est reparti. Et puis une génération suivante, peut-être, qui se levait ou pas, pour Dieu. Dieu allait, par sa grâce... amener du renouveau, etc., des raisonnements, des principes nouveaux, et puis ça fleurissait, et puis les gens qui marchaient avec Dieu, eh ben, ils gagnaient de nouveau, ils avaient du succès. Eh ben, c'était que pour une génération, peut-être deux, peut-être trois, etc. Le but, c'est que nous enseignions à nos enfants et à nos petits-enfants à marcher dans les voies de Dieu, et ça, c'est la fortune que nous leur transmettons. Quelqu'un qui est fortuné, c'est quelqu'un qui marche selon les valeurs de Dieu. Alors justement, je vais... Pour approfondir ça, dans Jean 15, versets 7 à 21, Jésus fait une prière. Vous le lirez à la maison. Jean 15, versets 7 à 21, c'est un petit passage. Et dans cette prière, en fait, on voit quel est l'exemple de la gestion que Dieu aimerait transmettre à chacun de ses enfants. On voit vraiment, quand Jésus prie, et je vais vous le démontrer, qu'il y a le principe... De la gestion voulue par Dieu. La première chose que nous voyons dans ce verset-là, c'est de recevoir un héritage. Du verset 7 à 10, Jésus reconnaît que tout ce qu'il possédait venait du Père. Seigneur ou Père, je sais que tout ce que j'ai me vient de toi. Première chose, c'est recevoir un héritage. Bon, deuxième chose, c'est préserver et édifier cet héritage. Ça, c'est le verset 12 à 14. Jésus dit qu'il a gardé et protégé ceux qui lui étaient confiés. J'ai gardé et j'ai protégé ceux que tu m'avais confiés. Aucun d'eux ne s'est perdu. Le troisième point, c'est édifier. C'est le dernier point, d'ailleurs. Et transmettre aux générations futures. Ça, c'est versets 15 à 21. Consacre-les par la vérité. Je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Consacre-les. Donc, c'est le verset 15 à 21. C'est édifier et transmettre aux générations futures. C'est Jean 17 Ok. Alors, ok, soit Jean 15, soit Jean 17, mais a priori, ce serait Jean 17. C'est Jean 17? Ok. Alors, le dernier, parlons, c'est édifier et transmettre aux générations futures. Jean, 15, Jean 17, donc du verset 7 à 21. Pardon. Ok, merci pour la correction. D'accord, donc recevoir un héritage, préserver et édifier cet héritage, l'édifier et le transmettre aux générations futures. Et à ce moment-là, quand on fait ça, il y a un cycle qui se met en place. Ça revient au principe de la fortune, d'accord ? Pour conclure justement sur la fortune, j'aimerais vous donner 5 clés que vous allez pouvoir développer avec vos enfants pour qu'elles s'accroissent. Si vous mettez en pratique ces 5 clés avec vos enfants, à un moment dans leur vie, je crois qu'il est bon, effectivement, de passer par ces 5 clés pour qu'ils puissent comprendre cette notion de fortune. La première clé, c'est de leur faire comprendre que la vraie fortune, elle commence par une perspective biblique de la vie. D'accord ? Vous pouvez mettre vos mots, vous pouvez traduire ça autrement, mais comprendre que la vie, pour comprendre la vie, il n'y a qu'une seule et bonne façon, c'est avoir une perspective biblique. D'accord ? La fortune, ça commence d'abord par la paix personnelle avec Dieu. Donc ça, c'est pour creuser ce premier point, d'accord ? C'est pas le suivant. Donc c'est faire la paix avec Dieu. Et peu importe si vous avez beaucoup d'argent, si vous ne voyez pas votre vie au travers du regard de Dieu, vous êtes pauvre. Vous avez souvent l'exemple de personnes qui ont des fortunes, etc. Mais ça leur sert à quoi ? Ça leur sert à quoi s'ils n'ont pas l'espérance dans leur cœur ? Donc c'est d'abord de commencer à comprendre que la vie, c'est avec Dieu. D'accord ? C'est aussi simple que ça. Le deuxième point, c'est la vraie fortune inclut les relations. La vie avec Dieu, mais la vie avec les autres. C'est de construire, de nourrir et de chérir des relations avec d'autres personnes. Et ça fait partie de la vraie fortune. En fait, c'est le plan de base de Dieu, c'est d'être en relation, c'est d'avoir du contact, c'est d'être les uns avec les autres, etc. Donc c'est un plan qui inclut les relations. La troisième clé, vous pouvez enseigner vos enfants et leur faire comprendre leur destinée. La place qu'ils ont dans l'œuvre de Dieu et qu'est-ce que ça va impliquer dans leur vie. Ça, c'est très important. C'est la fortune. C'est quoi ? C'est nos aptitudes. D'accord ? C'est nos talents, c'est nos dons, c'est des ministères, c'est nos aptitudes. D'accord ? La destinée, de comprendre quelle est notre destinée, quelle est notre place dans l'œuvre que Dieu a prévue sur cette terre pour nous et qu'est-ce que ça implique ? Okay. La quatrième clé, c'est leur enseigner à prendre du temps pour accomplir leur destinée. Et ça, c'est basé sur le psaume 90, verset 12. Vous pouvez noter, psaume 90, verset 12, vous connaissez. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. » C'est souvent qu'on peut se faire manger notre temps, etc., et que notre destinée, elle nous passe à côté. Et plus tôt on va enseigner ça à nos enfants, plus tôt ils vont vraiment s'attacher aux choses essentielles. Psaume 90, verset 12, et c'est leur enseigner donc de prendre du temps et d'avoir du temps pour accomplir sa destinée. La cinquième et dernière clé, c'est que la vraie fortune inclut le contentement matériel. Alors ça, c'est une leçon qu'on va développer la semaine prochaine. Mais vous pouvez déjà noter 1 Timothée 6, 6-10. 1 Timothée 6, 6-10. Effectivement, donc c'est un verset où Paul nous encourage à, nous contenter de ce qu'on a, dire ok, on a besoin d'avoir des biens matériels pour accomplir notre mission. Et justement, dans certains cas, ça veut dire à certaines personnes que c'est juste de quoi se nourrir, de quoi se loger. Ça peut déjà être suffisant. Ça, c'est dans certains cas. Mais dans d'autres cas, et on n'a pas le droit de dire que ce n'est pas de Dieu, ça peut être d'avoir plusieurs millions de dollars pour accomplir sa mission. D'accord ? Je ne vais pas creuser ce point en détail, mais souvent, quand un appel est grand, ben, l'approvisionnement de Dieu est aussi grand. D'accord ? Donc on ne peut pas dire que quelqu'un qui a besoin des millions de dollars pour accomplir son ministère est hors du plan de Dieu parce qu'il faut qu'il se contente. D'accord ? Vous avez compris ? Mais quoi qu'il en soit, et ce que vous pouvez retenir, c'est que dès qu'on a suffisamment pour accomplir notre mission, bah alors contentons-nous-en. Voilà. Ok ? On est bientôt à la fin. Il nous reste 2 jours, mais ça va passer assez vite. Le 5e jour, est-ce que c'est OK pour vous ? D'accord, on a un peu creusé la notion de fortune. Je crois que c'est important de bien l'asseoir, la comprendre. On l'a un peu vu un peu plus en détail et ça va nous être utile pour l'enseigner à nos enfants. Et comprenez bien que si vous transmettez la fortune à vos enfants, c'est ce que nous devons faire perdurer de génération en génération. Ça va produire des richesses, et c'est à ce moment-là que, lorsqu'on bénit nos petits-enfants, il y a un cycle qui se fait sur plusieurs générations, et c'est comme ça qu'on peut sortir à la fois de l'endettement, c'est un point qui est assez délicat dans plusieurs familles, ok ? Moi, je l'ai aussi vécu, et je vous en avais déjà témoigné, mais en tout cas... Si mes grands-parents, et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, maintenant que j'y pense, ils l'ont fait aussi. Ils m'ont donné un héritage, une partie en tout cas, et ça m'a vachement aidé. D'accord ? Et je crois qu'aussi, les personnes qui ont ça partent avec un vrai plus aussi dans la vie. À 20 ans, on part, on a presque rien, on a besoin de ces choses, etc. Et souvent, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un emprunt, on va se mettre dans des dettes. Peut-être c'est bien, peut-être c'est pas bien, peut-être c'est dirigé du Seigneur, peut-être pas. Mais attention, il y a certains dangers, ok ? Alors que si on partait avec un bon bagage, et alors attention, les richesses, si vous donnez 1 million de dollars à un enfant de 20 ans qui ne sait pas les gérer, il va les gaspiller. Mais vous lui avez transmis la fortune. C'est quoi ? C'est le caractère et les aptitudes selon le cœur de Dieu, avant tout, ok ? 5e jour, comment ou que proposeriez-vous pour enseigner la générosité aux enfants, on en a déjà parlé, et pour leur apprendre à donner avec joie? Je vais passer très très vite sur ce jour-là. Chacun est libre de trouver des astuces, etc. Mais une des clés que je vous laisse ce soir, c'est que lorsque, à la maison, on a appris ça, lorsque vous venez à l'église le dimanche matin apporter une offrande, votre dîme, etc., c'est quelque chose que vous avez préparé en amont. Ne le faites jamais sur un coup de tête et parce qu'il faut le faire. Ah zut, il y a le panier qui passe, d'accord ? On avait vu ça. Préparez à la maison, prenez un temps, etc. Ou même prenez un temps à l'église avant le culte, mais choisissez de préparer votre don, ce que vous allez donner. Mais impliquez vos enfants lorsque vous le faites. Et ça va leur montrer que, ah, papa et maman, ben, j'en sais rien, moi, tous les jeudis soirs, ben... Ils se préparent, ils prennent un temps, ils prient une demi-heure, 20 minutes, 10 minutes, 3 minutes, mais ils préparent ce qu'ils vont donner au Seigneur. « Ah ouais, moi aussi, je veux faire ça plus tard. » Et puis, quand vous vivez des super choses avec les enfants, impliquez-les aussi. Et comme ça, ils voient que c'est du très concret. D'accord ? Donc, toujours impliquer nos enfants lorsqu'on se prépare. Lorsqu'on prépare des dons, lorsqu'on est généreux, etc., on peut leur montrer, leur dire comment on fait, etc. Donc c'est la clé que je voulais vous laisser ce soir. Et on passe au 6e jour. Est-ce que vous avez des questions ? Super. C'était clair. Ok. Le 6e jour, c'est énumérer au moins 4 suggestions pour enseigner aux enfants à travailler de manière assidue, comme pour le Seigneur. Ok ? La session sur le travail qu'on avait passé ensemble, ben, nous-mêmes, en tant que parents, on était amenés et appelé à travailler et à faire tout ce qu'on fait comme si on le faisait pour le Seigneur. Et la première façon ou une des suggestions que je vous donne ce soir pour leur apprendre ça, c'est de leur confier une tâche, alors attention, de confier une tâche à leur portée qu'ils vont devoir accomplir régulièrement. Donc, à leur portée et régulièrement. Parce que si c'est juste momentané, ok, mais l'habitude, la régularité va vraiment asseoir l'enseignement dans leur vie. Et de faire une tâche pas forcément rémunérée, on est d'accord ? Pas obligé on peut leur enseigner aussi à faire du bénévolat, on est d'accord. Parce que si les enfants viennent un jour à l'église et disent bah, « Moi, je nettoierai les WC, pasteur, si tu me donnes 5 euros », bah, il faudra aller voir peut-être les parents et leur dire « Ok, bah, ils ont bien compris un des aspects du travail, ok, mais peut-être que ce n'est pas la façon dont ils vont être rémunérés à l'église. » Il y a toujours une rémunération, ok. Donc, leur confier une tâche à leur portée qu'ils vont accomplir régulièrement et pas forcément rémunérée. Vous pouvez rémunérer, mais pas obligé. La deuxième, c'est à la maison, les parents sont des modèles pour les enfants. Et ça, attention, parents, vous n'y échapperez pas. Je n'y échapperai pas non plus. Votre attitude, mon attitude vis-à-vis du travail va les influencer plus tard. Donc, les enfants, ils ne vous voient pas, on est d'accord, ils ne vous voient pas sur votre lieu de travail. À l'époque, on emmenait les enfants avec papa, maman, on les emmenait sur le lieu du travail, etc. Apparemment, ça se faisait, etc. Aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément faisable ou ça ne se fait plus. Voilà. Donc, vos enfants, ils ne vous voient pas travailler, ils vous voient en mode famille. Okay. Et si vos repères, les repères donc, de vos enfants, c'est la maison. Et si papa est un bosseur de ouf au travail, si le gars c'est vraiment le meilleur dans son job, mais qu'à la maison, quand il faut ranger la vaisselle ou faire la vaisselle ou j'en sais rien ou aspirer un petit coup et qu'on lui demande ça et qu'il dit oh là là, j'ai plus envie, il se met sur le canapé, il met la télé et puis j'en sais rien, voilà. Peu importe les raisons. Si votre enfant voit ça, il va se dire « Oh, papa, on lui demande un truc. S'il ne le fait pas, moi, on me le demandera. Ciao. » Ok. Enfin, ça peut amener ça. Nous sommes, en tant que parents, des modèles. Alors, attention, et ne le faites pas même si vos enfants ne vous voient pas. Mais oui, on peut être un super bosseur en dehors de la maison. Si à la maison, on n'est pas un exemple, vos enfants, ils vont grandir avec ça. OK ? Et ça, c'est valable pour tous les domaines. Donc, être un exemple. Troisième clé, c'est de donner un salaire qui est juste. Parce que oui, lorsque vos enfants font un travail que vous auriez donné à quelqu'un d'autre, par exemple, vous avez été béni, vous avez pu acheter une super maison, vous avez une propriété avec 40 arts de terrain, il faut 3 jours pour tondre, etc. D'habitude, vous employez un jardinier qui vous demande 1000 euros pour faire toute la tonte. Et puis là, votre enfant, il grandit, il devient ado, etc. Il fait de la muscu et tout. Il devient en âge de faire des travaux extérieurs. Et vous lui achetez une super tondeuse, mais pas automatique. Une qu'il faut pousser. Il va bien suer, etc. Et vous lui demandez gentiment de tondre. Il le fait. Et là, vous lui dites, merci, cher fils. À lui, là-bas, je lui donnais 1000 euros. Tu me l'as fait, ça me fait des économies. 10 euros, et puis tu auras le droit de manger avec nous ce soir. Vous avez le droit de le faire. Ça, c'est entre nous. Mais entre nous aussi, un jour, je pense que Dieu va aussi vous bloquer. Parce que je crois que ce n'est pas sur le cœur de Dieu. Un salaire juste lorsque votre enfant fait une tâche qui aurait été confiée à quelqu'un d'autre. Je pense que si c'était 100 euros que vous donniez au jardinier, votre enfant a aussi le droit, peut-être pas 100 euros, mais un salaire juste. Il faut donner le salaire que mérite cette tâche, en fait. Il ne faut pas que ce soit disproportionné. Sinon, ils vont partir avec la compréhension que plus tard, je vais travailler et soit on va se moquer de moi, soit je vais être sous-payé, soit, enfin, voyez les raisonnements qui peuvent venir dans la tête, etc. Et alors, comprenez-moi bien, quand on fait un travail pour la famille, par exemple, il n'y a pas forcément besoin d'être payé. Quand j'ai balayé la cour, quand j'ai nettoyé le garage chez mes parents, quand j'ai nettoyé la voiture et tout ça, ils ne me payaient pas forcément, d'accord ? On est quand même chez eux, ils nous donnent à manger, etc. Enfin, voilà, ça fait partie des tâches ménagères. Mais vous pouvez inclure dans un programme des tâches qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Ou peut-être que ça fait un an qu'ils vous nettoient la voiture tous les dimanches et puis vous êtes vraiment bien content. Bah, vous avez le droit de dire à la fin, bah, maintenant je te donne une bonne récompense, et, etc. Ou alors, tu voulais partir en vacances cet été, c'est papa qui rémunère. C'est papa qui paye les vacances. Tu choisis où tu veux aller. Mais et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une relation avec vos parents qui sont de confiance, qui sont honnêtes et qui sont saines. Okay ? Moi, mes parents, je me souviens, et puis vous me parlez d'argent avec mes parents, bah, j'ai aucun souvenir où j'ai manqué. Et j'ai bossé, j'ai trimé. Quand le gazon était tondu, c'était pire qu'un terrain de golf. Je faisais les bordures, c'était nickel et ça me satisfaisait. Mais mon père, il savait toujours dire, allez, on y va, on te paye ça, on te paye ci, on fait ça, voilà, t'as bien bossé et tout ça. Et pas forcément, vu que t'as tondu, maintenant tu vas recevoir, c'est normal, je vais te bénir. À nous de faire comprendre à nos enfants, de la manière que vous voudrez, qu'un travail, on peut avoir une récompense et que la récompense est juste. Et pourquoi, en fait, on fait ça, c'est parce qu'on a envie de montrer que Dieu est juste. Parce que c'est un principe divin de recevoir un salaire quand on travaille, pas forcément pécunier, on est d'accord. Quand vous travaillez pour l'Église et que vous n'êtes pas salarié pour l'Église, croyez-moi, Dieu vous rémunère. Et c'est ça qui est trop cool. Et c'est ça qui est trop bon. Et parfois, les gens, ils s'attachent surtout à la rémunération financière, etc. Mais non, mais Dieu, waouh. Et donc, on montre à nos enfants que Dieu est juste. La dernière clé, c'est de développer, pour développer le caractère de gérant fidèle, c'est ce qu'on apprend au travers de cette formation, mais vos enfants en seront aussi, c'est qu'il est bon que quand ils sont en âge de trouver un petit job, voilà, de les engager. Parce que souvent, moi j'ai rencontré des gens, 26 ans, 25 ans, 23 ans, moi mes étés, je me la coule douce au Baguerzé et tout ça, etc. Pour parler de moi, c'est à 15 ans que j'ai commencé à travailler. En France, c'était 16 normalement, l'âge minimum légal. Mais j'avais la chance que ma maman travaillait en Suisse. Et ma maman m'a fait rentrer dans son travail à l'âge de 15 ans. Et je n'avais pas le choix. Mes parents, ils ont dit, Luc, cet été, tu as 2 mois de vacances. Le premier mois ou le deuxième, tu choisis, tu bosses, ou les deux, c'est comme tu veux. Et puis le deuxième, tu peux avoir des vacances et tout ça. Mais tu vas te faire de l'argent de poche. Et quand je suis allé travailler en Suisse, croyez-moi que le salaire, waouh, c'était de la bombe. Et quand je le racontais à mes copains et tout, ils me disaient, tu fais quoi toute la journée ? J'avais honte de dire que, et là je vous confesse un petit peu entre quatre yeux, c'est que je faisais un travail de concierge un petit peu dans un des bâtiments où travaillait ma mère, et puis j'étais avec un monsieur qui fumait toute la journée dans... Alors oui, fumer activement, j'ai jamais fait, mais passivement, j'ai fumé à fond, quoi. Mais dans son bureau, il fumait super, il était super cool. Mais notre but, c'était d'amener des cartes de visite, les colis, ramener du papier dans les... Et parfois, il n'y avait pas beaucoup de travail. Et la journée, je m'ennuyais. Et je gagnais à fond à la fin du mois. Et quand je le disais à mes copains, ils en avaient trop marre parce qu'eux, ils trimaient sur des chantiers ou des trucs comme ça. Et moi, je disais, moi, je suis au chaud, je bois des cafés toute la journée. J'emmène deux, trois trucs. Salut, en Suisse et tout. Il fallait parler suisse. Voilà. Mais je me souviens que c'était vraiment... C'est grâce à mes parents... J'ai eu une vraie opportunité. Et vous savez ce qui s'est passé ? C'est que j'ai mis de l'argent de côté. Et puis, au bout d'un moment, quand je voulais me payer un truc, je me disais, vas-y, t'as suffisamment. Fais-toi plaisir maintenant. Et je me suis acheté des cymbales pour ma batterie. Je me suis amélioré, etc., des choses. Et c'était vraiment une bénédiction. Donc, vos enfants, engagez-les et faites-leur comprendre que le travail, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. c'est le cœur de Dieu. On l'a vu dans la session travail, c'est vraiment le cœur de Dieu, qu'on ait vraiment une activité qui, voilà, qui nous... Le mieux, c'est qu'elle nous plaise. Et surtout, le surmieux, le tellement mieux, c'est que ce soit notre appel. Alors, babysitting, job d'été, nettoyage, livraison, peu importe. Les enfants, enfin, je dis les enfants, mais les ados à 16 ans, on peut faire tellement de choses. Et en fait, ça nous apprend quoi ? Ça nous apprend la valeur de l'argent et l'effort pour le gagner, d'accord ? Parce que tout n'est pas... Voilà, ça ne tombe pas forcément du ciel. Dans certaines familles, peut-être. Mais c'est dommage qu'un enfant comprenne ça, que ça tombe du ciel, entre guillemets. Donc la valeur de l'argent, ça nous fait comprendre quoi ? La relation employeur-employé, même si vous êtes appelé à être un businessman, un patron, un futur... ça peut déjà... tous les patrons qui sont passés par la case départ, c'est les meilleurs patrons parce qu'ils savent d'où ils viennent. Enfin, c'est mon avis. Donc oui, de comprendre la relation employeur-employé et que de gagner un petit peu d'argent ou un petit peu beaucoup, ou voire beaucoup, c'est pas négligeable. Selon les opportunités que vous avez. Et moi, dans ma vie, j'ai eu vraiment, vraiment de la chance que mon papa, quand on rentrait de son travail ou quand il me ramenait, un jour, je m'en souviendrai tout le temps, il a vu un chantier sur le bord de la route. Il a fait presque un frein à main. Il a tourné sur le chantier. Il est rentré sur le chantier. Il est allé dans la cabane de chantier chercher le directeur. Il a dit, mon fils, il a tel âge. Il cherche un travail. Est-ce que pour cet été, est-ce que vous seriez d'accord de le faire ? Vous savez dans quelle boîte il l'a fait ? Il l'a fait dans une des plus grosses boîtes de construction suisse qui construisait en France sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse, où il faisait un hangar pour l'Airbus A380. Et j'ai travaillé là-dessus après parce qu'ils m'ont engagé. Et il a dit « Ok, faites venir votre fils et tout ça, ça a passé bien, on a fait check, allez, signature, contrat. » Voilà. Mais mon père a été tellement audacieux, il m'a ouvert toutes les portes comme ça. Je devrais peut-être pas le dire, mais en fait, si je dis merci à mon père comme ça, c'est que vraiment, c'était une opportunité. Il m'a chaque fois dégoté des choses. Ça ne veut pas dire que parents, vous deviez faire ça. Moi, j'ai eu le privilège de le faire et puis je suis heureux maintenant de l'avoir vécu comme ça. Mais si je n'avais pas eu un père comme ça, j'aurais voulu qu'il m'enseigne et à me mettre un pied dans le tibia pour me alors j'étais de nature quelqu'un à sortir de mon lit et j'étais pas quelqu'un à rester à dormir toute la matinée, etc. Il nous sortait du lit et je construisais des cabanes, je sortais, je faisais le jardin, donc ça c'était ok. Mais soyons des personnes qui la paresse, c'est Dieu n'aime pas ça. Dieu était actif, il était créatif, il y a tellement de choses qu'il nous confie pour qu'on vive une vie on dort assez dans notre vie. Alors en tout cas, c'est mon point de vue. Vous avez compris ? Donc, si nous enseignons, et ce sera mon mot de conclusion ce soir, très tôt à nos enfants, donc dans tous les domaines, on est d'accord que ça ne s'arrête pas au domaine des finances, mais que d'abord on sert d'exemple et que surtout on leur permette aussi de mettre en pratique. D'accord ? Si on leur apprend plein de choses et si on ne leur permet pas de mettre en pratique, ça ne sert à rien. Parce que c'est la pratique qui amène la transformation ou l'affermissement de l'enseignement dans notre vie, ils vont être équipés pour réussir. D'accord ? Et si, on le sait pour nous, on avait vécu ces choses de cette manière-là parfaite, avec les enseignements de la parole de Dieu, on serait parfaitement équipés. Et je crois que le succès serait dans tous les domaines de notre vie à plein régime. Et bien sûr, on n'oublie pas que nos enfants doivent être arrosés par la prière parce qu'on a beau leur enseigner des choses, mais ça fait l'objet d'un autre chapitre. Okay ? On va s'arrêter là pour ce soir. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, un micro. Ouais. Ok. Vas-y, Raymond.
C'est juste une petite remarque. Je ouais. m'aperçois tout le temps, et ça c'est quand on est parent, on fait toujours la même chose, c'est que on dit à nos enfants d'être généreux, de donner, de prêter, et d'un autre côté, quand ils prêtent quelque chose, on leur dit « mais pourquoi t'as prêté ?» la personne, elle ne te l'a pas rendu, c'est à toi, il fallait que tu fasses attention. Et on est tout le temps comme ça, quoi. Et c'est vraiment quelque chose, moi je pense qu'un enfant, il doit apprendre que ce qu'il a, c'est à lui. Et on n'a pas, nous, en tant que parents, à leur dire, faut que tu le prêtes. C'est à lui. Moi, si j'ai ma voiture, je n'ai pas envie de la prêter à quelqu'un. C'est ma voiture. Mais si quelqu'un me la demande, je lui prêterai. Ce n'est pas le problème. Donc, ce n'est pas à nous de enfin, pour moi, je pense, ce n'est pas à nous. On peut leur montrer par notre exemple, comme, comme tu nous as dit les choses. Mais c'est toujours cette notion de propriété. Quand j'ai des stylos, c'est comme ça en classe. Hein, on a des stylos. Mes parents, ils m'achètent un stylo. Il y a quelqu'un qui n'en a pas, je lui donne. Mes parents, ils me rachètent un stylo. Il n'y a qu'un autre qui n'en a pas, je lui donne. Ou alors, je m'en fiche. Et à un moment donné, les parents, ils disent, je t'achète plus rien, quoi. Mais alors on leur dit, mais tu nous as dit qu'il fallait donner. Vous voyez, ces choses, elles sont là. Et je pense que des fois, si on veut être généreux, il faut aussi apprendre que c'est à nous, les choses. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Hein,
je comprends la notion où il y aurait eu une usurpation derrière, où il y aurait eu un problème, où effectivement on se fait avoir. Après, moi, où j'ai été vachement travaillé, justement, c'est sur la propriété des choses. Alors dans les leçons du tout début, vous vous souvenez, où l'acte de propriété de tout ce qu'on a, est-ce qu'on se rend compte que finalement, on est juste des gérants? Mais après, ce que je comprends dans ce que Raymond veut dire, c'est que ne soyons pas bêtes. Apprenons nos enfants aussi, à nos enfants, à ne pas se faire avoir juste bêtement. La sagesse vient avec l'expérience, avec l'enseignement, avec l'esprit de Dieu. Certainement que nos enfants vont avoir du mal au début à faire la part des choses, etc. Et puis si on leur enseigne à donner, ben, ils vont le faire d'une façon... ils vont se donner entièrement, etc. Parfois, ce n'est pas toujours le cas. Moi, j'ai déjà rencontré des enfants, c'était des gros radins. et je me dis, voilà, ce n'est pas évident de trouver le... Mais après, effectivement, je pense qu'il faut... prions pour nos enfants toujours pour qu'ils puissent faire les bonnes choses au bon moment et puis qu'ils soient des témoignages. Puis après, bien sûr, si c'est un stylo, au bout de 10 fois, on va en avoir marre. Si un jour, ils donnent leur voiture parce qu'un gars aura su les manipuler, là aussi, il faut... Mais je crois que Dieu nous enseigne, il nous fait progresser, puis il nous avertit, il nous met des radars, enfin, des avertisseurs, des panneaux qui vont nous prévenir. Ça marche. Est-ce que sur le net, vous avez des questions?
Non, ça va.
Ok.
Non, c'est bon pour moi.
Ok, cool. Alors, avant de finir en prière, le prochain rendez-vous, c'est le vendredi 9 février. Vendredi 9 février 2018. Même heure, même endroit. Et on va parler, je vous l'avais dit pendant la leçon, du contentement. Si vous avez effectivement des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Je rappelle aussi que sur la session du travail, j'avais passé une vidéo, et pour tous ceux qui l'ont en enregistrement, qui ne l'ont pas encore suivi, une fois que vous avez écouté l'enregistrement, écrivez-moi et je vous envoie la vidéo, d'accord ? Parce que c'est ce qui conclut le cours. Il y a un super témoignage de MacPherson. Vous vous souvenez, la personne qui a créé des arcs et puis des guitares. Donc, c'est une fois que vous avez entendu l'enseignement, envoyez-moi un email. Comme ça, ça me permet de savoir. Je ne voudrais pas vous l'envoyer avant parce que c'est ce qui conclut le cours. D'accord ? Je voudrais le rappeler ce soir. Faites ça de cette manière-là et puis n'hésitez pas à m'écrire. Et puis, priez pour nous, pour l'équipe, petite équipe qui part au Portugal la semaine prochaine. Et je crois que ça va être vraiment des temps bénis. Mon espoir, mes attentes, c'est de revenir chargé de quelque chose que je vais pouvoir vous transmettre à l'église, transmettre ici à ECP, mais aussi pour vos familles, pour vos couples, pour vos vies perso, etc. Et je me dis, oh, Seigneur, j'ai trop envie d'entendre quelque chose là-bas ou de recevoir de toi quelque chose, peut-être de quelque chose que je connais, quelque chose que je connais pas du tout. Voilà, on verra. Mais priez pour nous parce que forcément, on va ça plaît pas à tout le monde qui est ce genre de conférence, et ça plaît pas au diable notamment. Donc voilà, il va tout faire pour sans doute nous décourager, mais nous sommes déterminés pour y aller. Amen. Ok, bah, je vais prier pour finir, et puis après, vous pouvez partir tranquillement. Merci Seigneur pour cette soirée, merci encore pour l'enseignement de ce soir. Merci qu'on puisse vraiment recevoir sur notre cœur cette semence. On a préparé notre terre et fait maintenant, Seigneur, croître et grandir cette semence, afin qu'au bon moment, on puisse y ait du fruit, afin qu'on puisse en manger et le mettre en pratique dans nos vies, c'est-à-dire toutes les clés qu'on a reçues, moi aussi, Seigneur, de les mettre en pratique. Et qu'on soit des hommes, des femmes, des familles de succès dans ce monde, des témoignages vivants, et que ça impacte, Seigneur, notre société. Parce que fortuné, Seigneur, on va être, on va devenir, on va continuer d'être. Et je déclare, Seigneur, que chacun ici puisse recevoir une part de ton esprit encore. Viens nous travailler, viens aussi nous récompenser, Père, parce que tu sais tellement dire merci, et tu sais tellement nous encourager. Permet que tout ce que nous apprenons porte beaucoup, beaucoup de fruits et que ce fruit demeure, Seigneur, de génération en génération et que ça tourne, Seigneur, que ce soit des familles trigénérationnelles et trigénérationnelles encore, Seigneur, qui soient bénies au nom de Jésus. Merci, Père, pour tout ce que tu fais encore et continue encore pour le temps qu'il y a de cette formation, Seigneur, et inspire-moi, inspire-nous, Seigneur, et fais-nous vivre encore de précieuses expériences avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un veut, justement, l'un des cinq documents que j'ai imprimés sur les banques? Je vous l'enverrai par mail aussi, mais si vous voulez lire par... Ok, j'en ai encore un. Est-ce que... Voilà, Ézéchiel. Je vous l'enverrai par mail sinon. Ok, merci à tous d'être venus. Merci les amis sur le net d'avoir suivi, d'avoir pris du temps. Soyez bénis. On vous retrouve là dans 2 semaines, quasiment dans 10 jours, le 9, si vous êtes là et dispo. Et puis entre-temps, passez de bons moments avec vos familles, etc. Si vous avez des familles, avec Dieu et puis avec vos amis. Et puis soyez des lumières dans ce monde qui impactent votre entourage, vos sphères d'influence. Yes. Bonne soirée à tous et bonne semaine.